Vous êtes sur RTL.
Besoin des prévisions de Louis Baudin. Nous sommes le mercredi 16 juin 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Alexandre Le Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors que les Bleus ont gagné, on a frôlé le drame hier soir à Munich.
Une action coup de poing de Greenpeace juste avant le coup d'envoi du premier match de l'équipe de France face à l'Allemagne. Dans ce journal également, un couvre-feu difficile à respecter pour les supporters. Joe Biden, Vladimir Poutine, une première rencontre sous forme de bras de fer. Dans l'affaire Mia, le complotiste Rémi Daillet de retour en France. Et puis la nouvelle politique du stationnement de la ville de Paris qui va faire hurler les conducteurs de scooters et les motards.
La politique, Olivier Bosse.
Avec Emmanuel Macron qui veut encore enjamber les élections, les régionales et la présidentielle.
Vos explications dès la fin du journal.
RTL Matin.
Ce sont des images impressionnantes et inattendues qui ont échappé aux caméras de télévision hier soir à Munich pendant la coupure pub, juste avant le match. Un parapente a atterri dans le stade. Il a bien failli s'écraser en tribune après avoir percuté le câble d'une des caméras suspendues dans les airs. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, le reconnaît. Il a eu la peur de sa vie.
Ouais, on a frôlé le drame, c'est pas passé loin. Bon, je suis une petite bosse parce que j'ai tapé un peu le haut du banc, mais c'est rien, ça aurait pu être. Oui, on a frôlé un drame encore une fois, donc ça restera que de la littérature puisque ça n'a pas de conséquences, mais la vie, elle peut basculer vite. Il faut pas l'oublier.
Didier Deschamps au micro de RTL et de M6. Bonjour Léo Brauer-Potier.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de RTL en Allemagne. Alors racontez-nous ce qui s'est passé. C'est une opération de Greenpeace qui a mal tourné, hein, c'est bien ça ?
Oui, alors ce qu'on a vu, c'est un homme accroché à un ULM qui décrivait des larges cercles au-dessus des têtes des joueurs et du public. Sur sa voile, une inscription « Kick out oil », c'est le nom de la campagne de l'ONG Greenpeace pour inciter les fabricants auto à renoncer au pétrole. En fait, le pilote aurait dû répandre un liquide noir sur la pelouse du match. Et c'est justement au cours de cette manœuvre qu'il accroche le câble d'une Spider Cam, ces caméras suspendues qui filment l'action depuis le ciel. La suite fait vraiment froid dans le dos. Déséquilibré, le pilote plonge et entame un virage serré à quelques mètres des têtes, manquant de peu de percuter des membres de l'équipe française. Finalement, l'ULM parvient à se poser sur la pelouse, non sans blesser deux hommes. Accueillis aux urgences, ils souffrent de blessures à la tête. Le pilote, lui, est indemne. Rapidement intercepté dès son atterrissage, il est maintenant entre les mains de la police de Munich.
Léo Brauer-Potier en Allemagne pour RTL.
Alors au-delà de cet incident spectaculaire, hein, vous l'avez compris, il y a de quoi se réjouir ce matin. On a retrouvé en fait nos champions du monde.
Des Bleus solides face à la Mannschaft, victoire 1-0 pour l'équipe de France. Un but contre son camp du défenseur allemand Mats Hummels après avoir été poussé à la faute par Lucas Hernandez. Une équipe de France en pleine forme qui signe un début prometteur, Julien Fautra.
Oui, des joueurs rayonnants et sur toutes les nuances. Le sourire franc d'un Antoine Griezmann au coup de sifflet final. Le sourire rageur d'un Benjamin Pavard qui harangue le public. Le sourire communicatif et musical, Presnel Kimpembe, dans le vestiaire après le match. Les signes de la victoire de 2018 sont là. Les remplaçants qui se jettent sur le terrain après le but finalement refusé à Karim Benzema. L'unité de l'équipe sur laquelle insiste Paul Pogba, savourant, traînant au bord du terrain jusqu'au bout de la nuit munichoise.
C'est vraiment tout le monde qui me pousse aussi, qui me pousse à être le meilleur de moi-même.
Ou encore le sélectionneur Didier Deschamps.
L'important c'est l'unité qu'il y a au sein du groupe.
Lui qui semble avoir trouvé la clé, les ressorts psychologiques pour que cette bande de 26 joueurs ait envie de vivre ensemble le plus longtemps possible.
Julien Fautre, envoyé spécial de RTL à Munich. Ça ne fait que commencer. Le prochain rendez-vous avec l'équipe de France, ce sera samedi après-midi face à la Hongrie.
Analyse de cette première victoire avec notre consultant Robert Pires dès 7h15. Une première victoire pour les Bleus en communion avec leurs supporters.
Ils étaient 2500 Français au stade à Munich après s'être soumis à plusieurs tests PCR et aux nombreuses restrictions sanitaires. Malgré tout, ce début d'Euro a comme un goût d'avant-monde pour les fans de l'Euro. Ceux qui sont restés en France ont laissé éclater leur joie hier soir après avoir suivi la rencontre dans les bars. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait demandé aux policiers de faire preuve de mansuétude quant au respect du couvre-feu. L'ambiance était chaude dans le quartier de Châtelet à Paris. Sébastien Rouxel.
Oui, dès la fermeture des bars alentours, quelques supporters montent sur des poubelles, haranguent la foule compacte face à eux. Environ 200-300 jeunes qui sautent, dansent, chantent, bien décidés à fêter la victoire le plus tard possible.
On s'en fout du couvre-feu, c'est l'Euro. Ambiance de fou, après la pandémie, ça fait plaisir de voir tout le monde dehors. On est vacciné, on est jeune, c'est normal qu'on fasse la fête.
Vous n'avez pas peur des amendes?
Là, on est tellement nombreux qu'on a l'impression d'être un peu invincibles par rapport à ça. On les a vus passer tout à l'heure, ils avaient l'air plutôt tranquilles.
Et pourtant, après une vingtaine de minutes, quelques policiers interviennent et demandent à la foule qui s'exécute de se disperser.
Ils ont dit qu'il fallait partir de la place, aucun problème. Mais ils ont été très gentils ce soir, il n'y a aucun problème. À voir ce qui va se passer sur les Champs après.
Les Champs-Élysées où quelques supporters ont voulu ensuite prolonger la fête, mais face à l'important dispositif de sécurité sur place, des dizaines de voitures de police, de fourgons, tous ont été finalement contraints de rentrer chez eux.
Un reportage de Sébastien Rouxel à Paris pour RTL. Les prochains matchs de l'Euro à suivre aujourd'hui. Finlande, Russie à 15h, Turquie, Pays de Galles à 18h, Italie, Suisse à 21h.
C'est pas mal tout ça, RTL Foot ce soir jusqu'à 23h. Toutes les dernières infos sur les Bleus, bien entendu, à retrouver également sur notre tout nouveau site internet rtl.fr.
Pour la première fois depuis le mois d'octobre dernier, la France est repassée sous la barre des 2000 patients Covid dans les services de réanimation. Le nombre de nouveaux cas détectés poursuit également sa baisse, 3230 en 24 heures. La vaccination continue de progresser alors qu'elle vient de s'ouvrir aux adolescents. Près de 59% de la population majeure a déjà pu recevoir au moins une dose. À l'approche des vacances, le gouvernement a décidé d'assouplir le délai pour la deuxième injection de Pfizer et de Moderna. Entre les deux doses, minimum 3 semaines désormais et toujours 7 semaines maximum. Une accélération justifiée notamment par la progression inquiétante du variant indien, le variant Delta.
Mystère, comme un air de guerre froide aujourd'hui sur les bords du lac Léman. On vous explique tout ça dans un instant.
RTL Matin.
Il est 7h07, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. La visite de Joe Biden en Europe touche à sa fin avec une rencontre aujourd'hui très attendue.
Le président américain va rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine. Et ça s'annonce particulièrement délicat, brise du génie. Surtout que Joe Biden a promis de parler des sujets qui fâchent.
Oui, l'empoisonnement de l'opposant Navalny, les soupçons d'interférence russe dans les élections américaines ou encore le dossier ukrainien. Joe Biden a précisé lundi lors du sommet de l'OTAN qu'il serait très clair avec le président russe.
Il est clair qu'avec le président Poutine, il y a des domaines où l'on peut coopérer. Mais s'il choisit de ne pas coopérer, alors nous réagirons. Je lui dirai les lignes rouges à ne pas dépasser.
Le ton reste ferme, comme il y a 3 mois. Un journaliste américain demande à Joe Biden s'il pense que Vladimir Poutine a du sang sur les mains. Réponse du président américain. Yes, I do. Oui, je le pense. Et il précise que pour lui, le président russe est un homme sans âme. Vladimir Poutine, quelques jours plus tard, avait ironisé. Vous savez, dans la cour de l'école, on dit souvent que c'est celui qui dit qu'il est. Nous voyons toujours en l'autre nos propres défauts. Entre cours de récréation et avenir du monde, ce climat de guerre froide sera aujourd'hui difficile à réchauffer.
Brice du génie du service étranger de RTL. Rémi Daillet face à la justice française. Cette figure du milieu complotiste a atterri tout à l'heure avec sa famille à l'aéroport de Roissy après avoir été expulsé de Malaisie pour un problème de visa. Soupçonné d'avoir téléguidé l'enlèvement de la petite Mia en avril dernier dans les Vosges, il risque d'être mis en examen. À Marseille, une grosse intervention de police hier soir à la gare Saint-Charles, bloquée pendant plus d'une heure. Des policiers casqués équipés de boucliers au milieu des quais. Ils ont interpellé un individu suspect dans un TGV en provenance de Nancy, susceptible de commettre un acte malveillant selon la préfecture. Au total, entre 400 et 500 passagers ont été impactés.
7h09, on termine avec le stationnement à Paris. La mairie ne veut plus faire d'exception pour les scooters.
C'était une promesse de campagne d'Anne Hidalgo. Jusqu'à maintenant, les conducteurs de deux roues motorisées n'avaient rien à payer pour se garer dans la capitale, mais ça va changer à partir de l'année prochaine. Les tarifs vont également augmenter dès cet été pour les automobilistes avec jusqu'à 6€ de l'heure pour stationner dans les arrondissements du centre. Pour les Français que vous avez rencontré, Nerissa Emani, la pilule est difficile à avaler.
Oui, Majid prend sa moto tous les jours pour aller travailler à Paris. Alors quand il apprend qu'il devra bientôt payer le stationnement, sa réaction est immédiate.
Non mais ça c'est un scandale, ça c'est un carrément un scandale. Prendre le deux roues, c'est pour éviter ces histoires d'embouteillage. Donc à partir du moment où on prend le risque de prendre un deux roues, je vois pas pourquoi qu'on viendrait nous tirer encore de l'argent. C'est complètement invraisemblable.
Chantal, elle se rend régulièrement dans la capitale en voiture, mais la future augmentation des prix du stationnement de 4 à 6 euros l'heure lui donne envie de fuir les parcs-mètres.
Ça me casse un peu les pieds. De toute façon, Paris, il n'y a pas la place pour tout le monde, pour les voitures. Avant, je prenais le métro, honnêtement, je ne prenais plus du tout la voiture, mais depuis le Covid, je reprends un peu la voiture. Et je pense que je ne suis pas la seule.
D'autres sont plus résignés. Edouard a une voiture et une moto et envisage même de les vendre.
Je trouve ça hyper pratique, mais si demain ça doit changer, en même temps aussi, je fais partie de ceux qui se baladent aussi dans Paris. Quand il n'y a pas de voiture, c'est quand même vachement agréable.
C'est pourquoi le jeune homme prévoit d'investir prochainement dans un vélo électrique.
À Paris, le reportage de Nerissa Emani pour RTL.
Je vais suivre ce dossier de près. Ah, bon. Les courses, elles ont lieu à Saint-Cloud.
Et les pronostics de Dominique Cordier, les voici. 9, 10, 3, 12, 4, 11... As, la dernière minute, c'est le numéro 12, Amour d'argent.
Le journal de 7h vous était présenté par Alexandre de Saint-Aignan. Il est 7h11, la politique avec vous, Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Emmanuel Macron veut encore enjamber les élections, Olivier.
Oui, les élections régionales, c'est l'avenir, là, ce week-end et le week-end prochain. Et puis pourquoi pas, pendant qu'on y est, la présidentielle. Tiens. Souvenez-vous, l'année dernière, au lendemain du second tour des élections municipales, Emmanuel Macron était immédiatement passé à autre chose. Il avait conclu le chantier de la Convention citoyenne pour le climat. Mmh. Eh bien, dans 2-3 semaines, après les élections régionales, le chef de l'État devrait aussi très vite passer à autre chose. L'idée circule parmi ses proches de vite clarifier la suite du quinquennat. Il pourrait le faire lors d'une réunion du Congrès, une piste évoquée par le canard enchaîné, pas forcément privilégiée à l'heure qu'il est. Emmanuel Macron exposera au château de Versailles ou ailleurs, donc, sa façon de voir les choses pour les mois qui viennent.
Mais le propos, c'est d'enjamber les fameuses élections régionales ?
Alors, pas seulement. Emmanuel Macron veut aussi construire un pont, en fait, avec un second quinquennat. Je sais, c'est un peu conceptuel, mais laissez-moi un instant pour vous expliquer. Vous en prie. Emmanuel Macron veut lancer des réformes qui se poursuivront et qui structureront un prochain mandat. Une élection ne se gagne jamais sur un bilan, ça on le sait. Son programme, ce serait en fait ses réformes en route et à venir. Sa campagne, c'est le débat que cela va créer. Il se déclarera très tard candidat, c'est une règle pour un président sortant, mais il aura quand même animé toute la campagne. Ses nouveaux chantiers doivent aussi le sortir des débats autour de l'insécurité. Mmh. C'est toujours la même stratégie, imposer ses sujets plutôt que de subir ceux des autres, de jouer offensif plutôt qu'en défensif.
Mais avez-vous une seule idée de réforme en tête, Olivier ?
Alors moi, absolument pas, mais oui. Emmanuel Macron, oui, bien sûr, et avec lui, la Cour des comptes, ça tombe bien, elle vient de rendre opportunément hier un rapport que lui avait commandé le gouvernement. Et que dit ce rapport ? Eh bien qu'il faut réformer les retraites, la sécu, l'État, revoir les dépenses sociales et la politique du logement. Ce qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, a exprimé à haute voix sur BFM il y a 10 jours pour faire tout ça. Il nous reste quelques mois et 5 ans supplémentaires pour faire les réformes. Commentaire amusé de l'un de ses collègues au gouvernement, Macron doit montrer qu'avec lui, il va encore se passer quelque chose. Pour enjamber la présidentielle, explique-t-il, il faut de l'élan. Accrochez vos ceintures, ça commence juste après les régionales.
Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, je vous rappelle que c'est Valérie Pécresse qui sera l'invitée de Benjamin Sportouche. Il sera donc question des régionales et évidemment de son avenir, puisqu'on sait qu'elle a des visées présidentielles. Dans un instant, nous allons retrouver notre consultant Robert Pires pour revenir sur la victoire des Bleus hier face à l'Allemagne. Ça a été difficile, mais c'est d'ores et déjà une réussite.
Dans RTL Matin, dès 9h, laissez-vous tenter.
Bonjour, c'est Bernard Lehu. Il va faire chaud, très chaud, aujourd'hui dans les librairies, avec la parution du 6e tome de la saga érotique 50 Shades, en bon français 50 nuances. Le 6e et surtout le dernier, si l'on en croit son auteur, la britannique E.L. James. Elle se confie en exclusivité au micro de Laissez-vous tenter. Au sommaire également ce matin, les sorties cinéma de la semaine avec Stéphane Boutsock. Rendez-vous à 9h.
Laissez-vous tenter sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Nous retrouverons Robert Pires, si tout va bien, dans quelques instants. Je vous dis les choses, il faut toujours être parfaitement clair avec vous qui nous écoutez. On a un petit problème de liaison avec notre consultant football. Et donc, c'est l'heure de notre pépite musicale quotidienne. Sortie de votre discothèque, Anthony Martin, bonjour, on vous écoute.
Bonjour à tous. Alors, il y a pile 56 ans, le 16 juin 1965, Bob Dylan poussait la porte des studios Columbia à New York pour enregistrer cette chanson. A Rolling Stone, malgré sa longueur de plus de 6 minutes, les paroles ne sont qu'un court extrait d'une nouvelle de plus de 10 pages écrite par Bob Dylan sur le thème de la revanche, l'histoire d'une femme de la haute société tombée en disgrâce. C'est aussi un texte rempli de colère et à la fin des années 80, un autre géant, David Bowie, a proposé une version orageuse de cette chanson. Bowie l'a enregistrée à Los Angeles avec les musiciens de Bryan Adams. La bande est restée dans un tiroir jusqu'à ce qu'il l'offre à son guitariste mythique Mick Ronson.
qui, dans les derniers mois de sa vie, préparait un album autour de ses amis. Mick Ronson a eu le feu vert de Bowie pour rajouter encore un peu plus d'électricité avec sa guitare. Oui. Ça réveille, et c'est notre pépite du jour. David Bowie interprète « Like a Rolling Stone » de Bob Dylan. Bob Dylan restera celui qui a inventé la folk rock en branchant sa guitare. David Bowie proposera une version 100% rock de la chanson Like a Rolling Stone, très en forme. Ouais. Ah oui. On trouve le morceau dans l'album posthume Heaven and Hell du guitariste Mick Ronson, album rare. Du coup, cette reprise par Bowie a été rééditée dans une compilation sortie il y a 3 ans.
Merci beaucoup Anthony, on se retrouve demain et à tout moment en podcast via l'appli RTL.
L'Euro sur RTL.
Le football reprend ses droits puisque nous retrouvons avec grand plaisir Philippe Sanfourche en direct de Munich. Merci d'être avec nous Philippe. On va être assez simple, hein. Cette victoire 1-0 était-elle méritée ?
Oui, alors elle était plus que méritée. On aurait même pu envisager, au vu des nombreuses occasions, notamment que Kylian Mbappé s'est procuré en laissant sur place le pauvre Mats Hummels de plusieurs mètres en accélération, on aurait pu envisager même plusieurs buts français en seconde période. Une victoire 2 ou 3-0 aurait été plus à l'image de l'équilibre des forces dans les occasions de but, parce que cette équipe de France a démontré qu'elle était vraiment capable, lorsqu'elle le souhaitait, de mettre la surmultiplication. Ouais. Et de devenir extrêmement inquiétante.
Alors justement Philippe, c'est très bien que vous nous disiez ça, parce que où les Français ont-ils gagné la partie ? En attaque, au milieu du terrain, en défense, qu'est-ce qui vous a paru le plus probant ou qui vous a le plus étonné, vous qui les suivez en permanence ?
Ce qui est marquant, c'est qu'en fait, on a essayé de décrypter tout au long de la préparation de cet Euro, ce qui était nouveau, et c'est normal. Il y avait l'attrait du retour de Karim Benzema, il y avait ce fameux trio d'attaque qui compose avec Griezmann et Mbappé. Mais en fait, dès le début de la rencontre, on a senti qu'on était comme projeté en arrière de 3 ans, en 2018, et on a retrouvé les valeurs de collectif, de combat, avec des joueurs sur lesquels on se posait pas forcément de questions, mais qui nous ont démontré une nouvelle fois, comme Paul Pogba, comme Raphaël Varane, oui, qu'ils étaient les tauliers, les patrons de cette équipe, et que c'est essentiellement défensivement que cette équipe est extrêmement impressionnante.
Et est-ce qu'il y a une performance individuelle qu'il faut mettre en avant et qui vous a particulièrement frappé ?
Je pense que si
moi j'ai Paul un homme Pogba... du match, je vous dirai après qui, mais j'attends votre analyse. Vous êtes...
Je pense que si Paul Pogba évoluait à ce niveau-là tout au long de la saison dans son club de Manchester United, il n'y aurait pas de débat chaque année pour savoir qui est Ballon d'Or. Oui. Parce que ce garçon est capable de tout faire. C'est un technicien hors pair, il a un physique monumental, il a une vision du jeu qui est hallucinante. Paul Pogba est pour moi, sur ce match, mais de très très loin, le meilleur joueur du monde.
Moi j'ai vu Griezmann absolument partout dans cette partie, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'il était devant, derrière, au milieu, c'était incroyable.
Ces deux garçons sont le lien en fait de cette équipe, oui, de France. Ce sont d'ailleurs eux qui transmettent le plus d'informations sur le terrain, qui parlent en permanence. Paul Pogba et Antoine Griezmann sont les deux hommes qui disent à tout le monde là maintenant on va monter de 10 mètres, là, oui, maintenant on va descendre de 10 mètres, on va reprendre le ballon, on va le lâcher un peu.
Alors, quels sont les progrès à faire ? Qu'est-ce qu'on peut quand même améliorer, même si on comprend bien que ce matin on est satisfait ?
Eh ben de manière très nette, hein, quand je vous disais on aurait pu, mais on n'a pas gagné par 2 ou 3 buts oui. D'écart. Ça signifie que il faut roder cette équipe, il faut roder cette nouvelle animation offensive. On le sait, en football, il s'agit pas d'additionner les talents pour que tout de suite ce soit un coup de baguette magique. Griezmann, Benzema et Mbappé, quand on les regarde individuellement, on se dit les trois ont fait un très bon match. Sauf que au final, il ne se crée pas tant d'occasions de but que ça. Mmh. Et Didier Deschamps l'a dit très clairement, si on doit améliorer quelque chose, c'est l'animation offensive, plus de fluidité, plus d'automatisme. Donc ça va passer par des séances d'entraînement poussées pour faire en sorte maintenant que les occasions soient plus nettes et que l'équipe de France marque plus de buts par match.
On a quand même pas mal subi en seconde mi-temps. Est-ce qu'il suffit de dire que la défense a été courageuse ou est-ce que là aussi il y a quelque chose qu'on peut peut-être améliorer ?
Alors, il faut aussi faire le constat que certains avaient peut-être annoncé l'équipe d'Allemagne moribonde et que ce serait une partie de plaisir. Je crois que la Mannschaft a vraiment donné du fil à retordre. Si on a assisté à un grand match avec une intensité folle, c'est parce que l'adversaire était à la hauteur. Donc déjà, bravo aux Allemands d'avoir donné une telle opposition. Oui. Et ensuite, effectivement, cette défense, elle est absolument de fer. Et on s'aperçoit que des garçons qui sont venus s'adjoindre. Presnel Kimpembe était déjà dans le groupe champion du monde, mais il était remplaçant. Et il s'est parfaitement fondu dans le collectif aux côtés de Raphaël Varane. On peut aussi noter la grande performance d'Adrien Rabiot, qui est venu muscler aussi ce milieu de terrain aux côtés de Kanté et de Paul Pogba.
En quelques mots, s'il vous plaît, prochain match samedi 15h face à la Hongrie. Ça peut être un match piège ?
Oui, ça peut être un match piège parce que si vous avez bien suivi leur performance face au Portugal, ok, ils s'inclinent en toute fin de match assez lourdement, mais il a fallu attendre la 84e minute, les Portugais ont vraiment tremblé, et également ce stade à Budapest, on n'est plus habitué, plus de 60 000 personnes, une ambiance de feu, donc l'équipe de France va pas devoir redescendre en intensité, faut vraiment rester sur ses standards de l'Allemagne pour tout de suite prendre une deuxième victoire, et là ce serait très très bien parce que ça permettrait d'être déjà qualifié pour le troisième match face au Portugal, et on sait que dans ce genre de compétition, pouvoir pas lever le pied, mais peut-être faire rentrer d'autres joueurs sur le troisième match, ça permet de voir plus loin, ça permet de recharger les batteries.
Formidable. Philippe Sanfourche en direct de Munich. Merci beaucoup, Philippe. Il est 7h25, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Louis Baudin est avec nous.
Oui, je suis là.
On va parler météo et orage dans un instant, puis auparavant, on aura retrouvé nos grosses têtes, vous êtes d'accord ?
Dans cet ordre.
Il est d'accord.
RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Cet après-midi, notre rendez-vous avec les grosses têtes et Laurent Ruquier est fixé à 15h30. Et ce matin, ils ont décidé de prendre des nouvelles de Carlos Ghosn.
Ce sont les deux Américains des forces spéciales qui ont évadé Carlos Ghosn, effectivement, du Japon. C'est-à-dire que les deux types qui l'ont aidé à s'évader, eux, sont devant le tribunal, mais celui qui s'est évadé est toujours au Liban. C'est ça qui est marrant.
Mais peut-être qu'il va payer des gens pour faire évader ces gens quand ils seront en prison.
Oh, il s'en fout, je pense.
Tu crois qu'il est comme ça ?
Vous croyez ?
Ce serait sympa.
Oh, ce serait sympa de sa part, mais je ne suis pas sûr qu'il soit comme ça.
Il n'est pas du genre comme ça, Carlos.
Non.
Pour
non.
gagner ce que gagnait Carlos Ghosn, j'ai fait les calculs, il aurait fallu que je commence à travailler sous Clovis. Donc ça veut dire qu'il a gagné de l'argent.
Ça aurait peut-être mieux marché à l'époque. Hein.
C'est vrai que ça fait une carrière un peu longue. Rendez-vous donc dès 15h30 et jusqu'à 18h cet après-midi avec Isabelle Mergaux, Sébastien Thoen, Christine Bravo, Valérie Mérès, Paul Elkarat et Bernard Mabille que vous venez d'entendre, cher Louis. Oui. Alors, comment se tricote cette météo où on sait que les orages arrivent? On est en alerte orange dans l'ouest. 25 départements, c'est bien cela?
C'est ça, exactement, des départements de l'ouest. Alors évidemment, avec les orages, on reste prudent, même si on a mis les départements les plus à risque, mais c'est vrai que toute la moitié ouest va se retrouver à partir cet après-midi et ce soir sous ce risque orageux. Avant ça, beaucoup de soleil encore hein, ce matin. Les orages le sont, si je puis dire, contre les Landes et la Gironde, mais c'est vrai qu'au fil des heures, ce risque va gagner vers la Bretagne, la Normandie, puis les Pays de la Loire, puis toutes les régions du sud-ouest, et puis en fin de soirée ou en cours de soirée, l'Île-de-France sera concernée également, comme le Nord-Pas-de-Calais. Toute la moitié ouest donc va se retrouver avant la nuit prochaine sous ce risque. Dans l'Est, donc, vous avez encore une journée de répit avec un temps sec très ensoleillé et très chaud, sauf en montagne hein, sur les Alpes et le Massif central. Là aussi, on aura un risque orageux. Alors, je le rappelle, sous les orages, du bon sens, on s'arrête parce que visibilité réduite, parce que forte pluie, parce que de la grêle, parce que des rafales de vent. En général, ça ne dure pas longtemps, c'est une heure ou deux. Oui. Et ensuite, eh bien, on peut reprendre une activité un petit peu plus normale. Les températures avant les orages, encore très élevées, 23 à 24 degrés près de la Manche, 26 à 29 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse. Ce sera un peu moins chaud qu'ailleurs, où là, nous serons entre 30 et 35 degrés.
Les bons conseils de Louis Baudin. Nous vous souhaitons une excellente journée. Il est 7h30.
RTL Matin. Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 16 juin. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et on commence avec cette information RTL, la naissance d'une nouvelle compagnie ferroviaire française. Ça n'arrive pas tous les jours. Elle s'appelle Midnight Trains, les trains de minuit. Premier départ prévu en 2024. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Plus qu'un train de nuit, hein, c'est vraiment un nouveau concept.
Oui, c'est en quelque sorte un hôtel sur rail. On ne parle plus de cabine mais de chambre. Il ne sera d'ailleurs pas possible de voyager avec des inconnus comme c'est le cas aujourd'hui dans les trains couchettes de la SNCF. Il y aura des cabines solo, un duo et familial, un bar et un restaurant. Les chambres, elles seront modernes avec des sanitaires privatifs et changent radicalement avec les cabines traditionnelles qu'on connaît. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques photos sur notre site rtl.fr. Ces trains de nuit, ils partiront depuis Paris vers Madrid, Lisbonne, Rome, Vienne, Berlin, Copenhague et d'autres destinations en Europe. Cette nouvelle compagnie ferroviaire veut d'ailleurs plutôt concurrencer l'avion plus que la SNCF et promet que ses tarifs seront pas forcément plus chers que ceux de l'entreprise nationale, mais avec plus de services.
Alors on est d'accord Arnaud, rien à voir avec la SNCF, alors qui finance ?
Eh bien Xavier Niel par exemple, et les deux patrons de cette start-up sont conseillés par d'anciens directeurs d'Eurostar, Thalys, mais aussi par le directeur général du groupe Pierre et Vacances. Midnight Trains va commencer à recruter dans les mois qui viennent. Elle devra néanmoins acquérir ses rames, c'est vrai, pour les transformer notamment en hôtel et trouver dans un premier temps un partenaire ferroviaire pour les faire circuler.
Merci Arnaud Touche, information RTL.
L'Euro sur RTL.
En football, les Bleus entrent du bon pied dans l'Euro. Hein,
les hommes de Didier Deschamps ont tenu leur rang de champion du monde avec une victoire 1-0 sur l'Allemagne. Un but contre son camp du défenseur allemand Hummels. La France s'est vue refuser 2 buts d'Mbappé et Benzema. Et Hugo Lloris n'a pas eu à faire un seul arrêt. Bref, bonne entame. Une victoire du collectif, selon Paul Pogba.
Prestation de l'équipe, c'est ça le plus important. Sans eux, vraiment, j'aurais pas été aussi performant. Parce qu'ils m'ont aidé. Ils ont tous poussé. Tout le monde parlait, surtout avant l'Euro. Favoris, pas favoris. Le groupe de la mort. Par le groupe de la mort. Franchement, nous, on est concentrés dans ce qu'on doit faire sur le terrain. On doit aussi assumer ce statut qu'on a de champion du monde et venir sur le terrain avec l'humilité et faire des performances comme ça. Quand on doit souffrir, on est tous ensemble aussi. Et quand on doit attaquer, on est tous ensemble.
Paul Pogba au micro de nos confrères d'M6. L'avant-match a été marqué par un incident spectaculaire. Un militant de Greenpeace en ULM a survolé le stade de Munich. Il a failli s'écraser en tribune. 2 personnes ont été blessées. Ce premier match des Bleus, c'était aussi la fête des supporters. Heureux de retrouver enfin une grande compétition. Heureux aussi de retrouver Karim Benzema en sélection et particulièrement chez lui, à Bron.
Exceptionnel le retour de Karim en équipe de France. Ah, ça fait plaisir.
Franchement, magnifique.
Déçu pour Benzema, évidemment. Il a marqué dans nos cœurs, donc voilà, c'est plus important.
C'est trop bien, on est français, on est tous contents, c'est trop cool. Ça fait du bien de revoir les joueurs sur un terrain de foot, c'est trop cool. Et de retrouver tout le monde, pouvoir revivre cette ambiance-là, c'est vraiment trop bien.
Allez la France !
Les supporters de Bron au micro RTL de Frédéric Perruche. Dans ce groupe F, le Portugal a facilement battu la Hongrie 3-0. Un pénalty et un doublé de Cristiano Ronaldo qui devient ainsi le meilleur buteur de l'Euro. Il surpasse Platini. Le prochain match des Bleus, c'est contre la Hongrie justement. Ce sera samedi à Budapest. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette rencontre au sommet à Genève. Joe Biden doit s'entretenir avec Vladimir Poutine en tête-à-tête. Il a promis de ne pas éviter les sujets qui fâchent, l'Ukraine, les droits de l'homme ou encore les cyberattaques. Et puis aux États-Unis, la quasi-totalité des États de l'Ouest est placée en état d'alerte en raison d'une vague de chaleur particulièrement précoce. Les températures pourraient friser par endroits les 50 degrés.
7h33 en France, le débat sur la fin de vie revient dans l'actualité après la mort d'Alain Coq.
Cet homme de 58 ans était atteint d'une maladie incurable depuis ses 23 ans. Il souffrait le martyr et par 2 fois il avait tenté de se donner la mort en faisant une grève de la faim. Il s'était confié à Nerissa Emani en septembre 2020.
Moi, pendant 34 ans, j'ai dépassé ma maladie. Bon, elle se réveillait régulièrement, mais elle me permettait de vivre. Maintenant, je veux m'endormir et ne plus souffrir.
En août dernier, Alain Coq avait demandé à Emmanuel Macron de le laisser recourir au suicide assisté. En vain, c'est donc en Suisse qu'il est allé mettre fin à ses jours. Sa mandataire, Sophie Metzeberg, l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle.
Ça s'est passé très vite, c'est-à-dire que il est arrivé, on l'a préparé, on lui a donné son comprimé et en 2 minutes, il n'y avait plus personne. Une dernière boutade et il s'est endormi. Là, il avait vraiment envie d'en finir et il était heureux de partir. Il m'a dit qu'il comptait sur moi pour continuer son combat.
Sophie Medjeberg. Rémi Daillé a atterri ce matin à Paris. Cette figure des milieux complotistes est soupçonnée d'être impliquée dans l'enlèvement de la petite Mia en avril dans les Vosges. Il a été expulsé depuis la Malaisie. Il doit maintenant être transféré à Nancy pour être mis en examen.
Et puis, c'est jour de sortie pour Thomas Pesquet.
Oui, le spationaute français doit s'élancer aujourd'hui dans le vide spatial pour installer un nouveau panneau solaire sur la Station Spatiale Internationale en équipe avec un Américain. Les deux hommes vont passer 6 heures en impesanteur à 400 km au-dessus de la Terre, ce qui n'est pas sans risque. En 2013, l'Italien Luca Parmitano a failli se noyer dans son scaphandre à cause d'une fuite.
Tout de suite, j'ai essayé d'appeler mes copains. Sauf qu'ils ne m'entendaient pas parce que l'eau avait couvert les microphones, donc ils ne m'entendaient pas. Et donc, j'ai pensé qu'il fallait retourner au SAS. Sauf que c'était la nuit, il n'y a pas d'autre lumière. Et donc, je suis retourné en utilisant la mémoire, ce que je savais de la station. C'est pour ça que ça m'a pris presque 8 minutes. Je me suis concentré sur quelles pouvaient être les solutions. Je n'avais pas le temps d'avoir peur. Ça n'aide pas.
Le spationaute italien Luca Parmitano, joint pour RTL par Sophie Jousselin. Impressionnant. Hein,
ah bah oui, quelle histoire, quelle aventure.
Et quel calme.
On se retrouve à 8h40, excusez-moi, non, je suis laissé perturber pour la face cachée de la une, Isabelle.
Absolument, et à la veille du bac, nous verrons comment la philo peut vous sauver la vie.
Très bien, à tout à l'heure. François Langlais, bonjour.
Bonjour Yves Calvi.
Il est 7h35.
Oui.
L'incident nucléaire en Chine appelle de votre part un bilan de la filière nucléaire française.
Oui, vous avez vu qu'il y a une fuite de gaz rare à Taishan en Chine. Alors il est question que les techniciens du laboratoire PK de Wuhan arrivent pour réparer. Non.
Vous dites ça pour nous rassurer, bien entendu.
Plus sérieusement, ça appelle évidemment des questions sur la filière EPR française et son devenir, alors que nous devrions, en principe, utiliser cette technologie pour renouveler notre parc.
A tout de suite pour l'Anglais Co avec François Langlais.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h37, l'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Un incident a donc eu lieu dans la centrale nucléaire de Taishan. Est-ce qu'on sait ce qui se passe vraiment? Nous sommes en Chine, je le rappelle.
On le suppute. Ce sont, semble-t-il, des fissures qui ont libéré des gaz rares dans le circuit de refroidissement de la centrale, construite avec les Français. C'est un incident, je ne dis pas banal, mais qui semble ne pas présenter de gravité. Il nécessite une surveillance, bien sûr, mais n'a pas de conséquences pour l'environnement. Le problème, c'est que ça se passe en Chine.
Voilà.
La Chine qui peut mentir délibérément quand un sujet la gêne, oui. La Chine qui refuse de faire la lumière sur le démarrage de l'épidémie de Covid, hein, alors que la communauté internationale, la presse, de fournir les informations qui permettraient d'écarter l'hypothèse d'une contamination accidentelle dans le fameux laboratoire P4 de Wuhan. Du coup, la méfiance s'installe, entretenue par les Américains, qui sont en pointe pour ferrailler avec Pékin. Et c'est un nuage de plus sur la filière nucléaire française des EPR, ces réacteurs de nouvelle génération dont Taishan est à cette heure le seul exemplaire, j'allais dire vivant, le seul exemplaire qui marche.
Alors, où en est-elle cette fameuse filière de l'EPR en France ?
Elle doit remplacer à terme les dizaines de réacteurs français en service, mais l'affaire a mal commencé, hein, avec un contrat en Finlande, Olkiluoto, qui a coûté des milliards de plus que prévu. L'achèvement était prévu pour 2009, on n'y est toujours pas. Flamanville, en France, autre prototype, autre fiasco, là encore, retards et surcoûts incessants. En partie, il faut dire, à cause des normes de sécurité de plus en plus strictes, qui exigent de véritables performances technologiques, que la filière française ne parvient pas toujours à réaliser, en matière de soudure, par exemple. Flamanville devait être mise en service, devrait être mise en service en 2023. Il était prévu initialement pour 2012. Et puis, il y a un gigantesque projet au Royaume-Uni, à Hinkley Point, dans lequel EDF est aussi très engagé, qui lui aussi a pris du retard, lui aussi coûtera plusieurs milliards de plus. Pour faire bonne mesure, rappelons aussi le désastre d'Areva, l'industriel, hein, qui a été démantelé, restructuré, en partie récupéré par EDF, après une faillite qui a coûté des milliards aux contribuables français.
Bah dites donc, c'est la fête ?
Mais je vous ai pas tout dit.
Ah bon ?
Tout récemment, le nucléaire a pris un autre coup à Bruxelles. La Commission a en effet refusé de considérer cette technologie comme parfaitement propre et durable, contrairement aux solaires ou aux éoliennes, alors que, bien sûr, le nucléaire n'émet pas de carbone. Et c'est quand même le critère clé pour le climat.
Ben oui.
Un nouveau rapport va être établi par des experts d'ici cet été, afin d'évaluer précisément l'impact environnemental de la technologie. L'enjeu est très important, parce que si le nucléaire n'obtenait pas ce label, il serait plus difficile à financer. Et j'en rajoute encore une louche, EDF, notre opérateur national, est en passe d'être réformé, justement pour isoler l'exploitant nucléaire des autres activités, et puis en faire une société publique française. Mais le projet de scission est ensablé, dans les méandres technocratiques de la direction de la concurrence à Bruxelles, qui demande d'innombrables contreparties absurdes.
Bon, quand doit-on renouveler notre parc de centrales françaises ? C'est quand même la question initiale.
Bah, Emmanuel Macron a toujours dit « la décision sera prise quand Flamanville sera en service ». C'est un peu comme les calendes grecques. Hein. Théoriquement, c'est 2023.
Oui.
Bon, c'est une position raisonnable. Ça sera l'un des grands sujets du prochain quinquennat. Encore faut-il que, d'ici là, les artisans du nucléaire français aient dissipé les doutes sur la technologie, sur sa rentabilité, sur son impact environnemental et sur la capacité d'EDF à piloter tout ça dans une structure rénovée. Il y a encore un peu de boulot.
Merci beaucoup François Langlais. Je rappelle votre podcast L'Anglais, L'Anglais Cohors Série d'ailleurs, avec Catherine Mongin. Cette semaine, vous analysez comment le distanciel a fait exploser la triche aux examens. Tiens, j'y avais pas pensé, ça c'est assez logique. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Valérie Pécresse, candidate à sa succession à la présidence de la région Île-de-France. Alors elle est favorite, mais l'abstention peut-elle changer la donne?
A tout de suite avec Valérie Pécresse sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h42, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin la présidente de la région Île-de-France, candidate à sa réélection, Valérie Pécresse.
Bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors l'Euro de foot d'abord et première victoire de l'équipe de France, ça a fait plaisir à tout le monde, j'imagine à vous aussi. Mais ce qui a fait parler hier, c'était la décision des joueurs de mettre un genou à terre. Finalement, ils n'ont pas eu le temps de le faire, c'était pour protester contre les discriminations. Est-ce que vous les soutenez dans cette démarche ?
Je comprends la symbolique de leur démarche, mais ce que je veux redire ici avec force, c'est que la police française n'est pas raciste. Et que George Floyd, c'est aux États-Unis, c'est pas en France.
Donc, c'est incompatible ou...
Non, je dis que je comprends qu'on veuille marquer et que les joueurs veuillent marquer leur volonté de lutter contre les discriminations. Mmh. Mais je voudrais vous dire, monsieur Sportouche, au fond, quel plus beau message envoyé sur l'antiracisme, la lutte contre les discriminations, que le visage de l'Île-de-France...
Lapsus
révélateur. Que le visage de l'équipe de France. Non, l'équipe. Le visage de cette équipe de France qui est, tricolore et multicolore.
Donc s'ils le font, vous ne critiquerez pas comme Éric Ciotti cette démarche.
Non, j'ai dit que je comprenais la symbolique. D'accord. Je vous dis juste que la police française n'est pas raciste, ça n'est George Floyd, ça n'est pas notre histoire.
Alors, autre actualité, eh bien, c'est bien sûr le port du masque. Vous savez que les Français ont chaud, en Île-de-France notamment en ce moment. Vous êtes responsable des transports en commun et on se pose la question, est-ce que vous souhaitez qu'on puisse enlever le masque dans le métro à partir du 1er juillet ?
Je souhaite qu'on garde le masque dans les transports en commun aussi longtemps que ce sera nécessaire. Et je le dis parce que nous avons réussi dans cette crise à n'avoir aucun cluster dans les transports en commun. Mmh. Et la confiance dans le réseau de transports en commun est indispensable. Donc je souhaite que les autorités sanitaires soient très claires sur cette question, qu'elles l'examinent et que ce soit une question à part entière parce que nous devons permettre à tous les franciliens de prendre les transports en commun en toute confiance.
Donc si l'obligation en extérieur est levée, est-ce que vous dites quand même qu'il faut mieux le maintenir dans le métro au cas où ou pas dans
Je ne sais pas, je ne suis pas les autorités sanitaires, mais c'est à elles de dire.
D'accord. Alors toujours, pour ce qui est de cette pandémie, vous savez que le variant Delta, dit aussi indien, se propage en Grande-Bretagne. Et à ce jour, bien, les voyageurs non vaccinés qui viennent du Royaume-Uni bien, s'engagent à s'isoler pendant 7 jours. C'est un engagement sur l'honneur, une fois qu'ils sont arrivés en France. Est-ce que pour vous, il faut garder ce système ou pour l'instant, il faut fermer, empêcher tout arriver en France ?
Il faut que nous soyons très vigilants sur le contrôle des frontières. C'est ce qui a fait revenir, à l'époque c'était d'ailleurs le variant anglais, c'est ce qui a fait revenir le variant anglais l'été dernier, c'est que nous avons été trop laxistes sur le contrôle des frontières. Et je le dis d'autant plus que l'Île-de-France est une région frontière, puisque nous avons des aéroports internationaux, des très grandes gares. Donc le rôle du gouvernement, me semble-t-il, face au variant indien, c'est d'empêcher son arrivée en France et donc de mettre des quarantaines. Si, effectivement, la situation sanitaire de la Grande-Bretagne l'exige, il faudra durcir les conditions d'accès des ressortissants britanniques ou de tous ceux qui viendront de Grande-Bretagne en France.
Parce que ça se dégrade déjà. Et là, c'est un engagement sur l'honneur. Donc, vous nous dites qu'il faut aller maintenant beaucoup plus...
Il faut que les autorités sanitaires se saisissent de cette question et qu'ils examinent la situation britannique.
Alors, revenons-en, bien sûr, à la campagne des régionales. Et hier, eh bien, on a appris Valérie Pécresse, que les motos et scooters paieront le stationnement à Paris à partir de 2022. Quelque part, on se dit que ça peut être une réforme considérée comme juste, puisque les voitures le payent déjà. Qu'est-ce que vous dites ?
Alors, pas seulement les motos et les scooters. Hein. On a appris aussi hier que les voitures des banlieusards paieraient encore davantage quand ils se gareraient à Paris.
Pas uniquement les voitures des banlieusards, ça sera dans
les voitures des non-résidents. Les voitures des non-résidents. Donc, le sujet, il est simple. C'est que je crois qu'il y a deux visions de l'écologie qui s'opposent. Il y a une vision qui est punitive, qui consiste uniquement à interdire et à taxer, taxer toujours plus, et une vision qui est positive, qui est la mienne, qui est celle d'inciter les Franciliens à pouvoir choisir l'écologie. Et je le dis parce que finalement, ces deux choix de société, ils vont s'opposer aussi pendant les régionales. Deux écologies. Une écologie ou antisociale. Et c'est celle qu'on voit aujourd'hui, vous savez, dans la zone de faible émission. Aujourd'hui, il y a une zone de faible émission qui vient d'être instaurée le 1er juin à l'intérieur de la 86. Dans cette zone de faible émission, il y a les trois quarts des véhicules qui vont devoir être mis à la casse d'ici 2024. Ils ne pourront plus circuler. Or, on a fait cette zone de faible émission. La métropole du Grand Paris a fait cette zone de faible émission sans l'accompagner avec des mesures extrêmement puissantes d'aide au changement des véhicules. C'est pour ça que dans mon projet, il y aura une aide jusqu'à 6 000 euros pour aider les Franciliens qui habitent à l'intérieur de la 86 ou qui y travaillent pour qu'ils puissent vraiment changer leur véhicule. Et cette aide sera cumulable avec les aides de l'État. Vous voyez deux visions. Une vision écologiste.
Mais est-ce qu'elles sont opposées à la limite
décroissante.
Parce que là, on se dit qu'il y a une forme d'égalité quand même, voilà, entre les modes de transport,
mais
entre
non,
la
mais
voiture et le scooter.
Non, mais attendez, non, quand on taxe, c'est toujours les plus pauvres, c'est toujours ceux qui n'ont pas les moyens qui sont les plus pénalisés. D'ailleurs, je remarque, et c'est un peu ironique, que mon adversaire, Madame Pulvar, adjointe à la maire de Paris, qui se présente contre moi, veut la gratuité dans les transports. Mais la gratuité, ça n'existe pas. Monsieur Langlais pourrait vous le dire. La gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc, nous avons calculé que la gratuité dans les transports, ce serait une taxe de 500 euros par ménage francilien pour la financer.
Alors, puisqu'on parle d'aide, eh bien écoutez, j'ai regardé votre programme hier, et en matière de sécurité, j'allais vous dire, vous proposez une forme d'alarme pour tous. C'est-à-dire, vous proposez une aide, Valérie Pécresse, de 100 euros pour se doter d'une alarme chez soi. Et vous avez budgété cette possibilité-là ? Vous savez combien il y a de logements en Île-de-France ? C'est quand même très important.
Absolument, mais l'idée... Non, mais cette aide à l'alarme de 100 euros, elle s'adresse notamment à ceux qui la demanderont. Et donc, c'est en général les personnes les plus modestes qui demandent les aides, parce qu'il faut faire un dossier. Donc nous avons budgété, effectivement...
Combien ?
Plus 10 millions d'euros sur cette alarme.
Mais il y a 5 800 000 logements en Île-de-France. Alors, potentiellement, ça peut être 400,
mais tout le monde,
500,
tout le monde
600
n'a pas d'alarme.
Mais il n'y aura pas de conditions.
L'objectif, non. L'objectif, mais vous savez, en fait, les conditions de ressources, ça ne sert qu'à exclure les classes moyennes, en fait. Parce que les personnes favorisées ne demandent pas une aide de 100 euros. Ils ne font pas le dossier, ils ne le demandent pas. En revanche, si je mets des conditions de ressources, je suis sûre que d'une seule chose, c'est que je vais passer à côté d'une famille qui sera juste au-dessus du plafond. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des injustices et des inégalités.
Et vous ne craignez pas une société de l'hyper-méfiance en disant, voilà, mettez partout une alarme chez vous ?
Aujourd'hui, la production de la sécurité, ça doit être une coproduction. C'est l'alarme chez vous, c'est la police municipale, c'est les brigades de sécurité que j'ai mises dans les lycées pour éviter les rixes de bandes. Il y a une coproduction de sécurité, mais le maillon faible aujourd'hui, c'est la sanction, c'est la justice. Et c'est pour ça que dans l'étape 2 du bouclier de sécurité régionale, ma politique de sécurité, première étape, c'était renforcer les effectifs, mettre de la vidéoprotection, aider les polices municipales. L'étape 2, ce sera aider la justice. Et c'est pour ça que je propose de créer une agence régionale des travaux d'intérêt général pour que la région puisse permettre de faire ces travaux d'intérêt général. Et pour aider le ministère de la Justice, je propose que la région finance des centres éducatifs fermés ou des places de prison. Si le ministère de la Justice n'est pas au rendez-vous, eh bien la région peut aider, nous viendrons épauler l'État là où il est défaillant.
Alors, vous êtes donnée largement favorite dans les sondages à ce jour, pour un second mandat à la tête de la région Île-de-France. Est-ce que vous craignez pour autant l'abstention dont on dit qu'elle va être forte et qu'elle pourrait bien changer la donne?
Absolument, il ne faut pas se démobiliser. Je vous ai parlé de cette gauche, de cette gauche de la décroissance, de cette gauche punitive, de cette gauche qui a des lubies qui sont finalement parfois anti-écologiques, comme par exemple de refuser la climatisation dans les bus. Aujourd'hui, si les Franciliens sont dans certains bus non climatisés, c'est parce que les Verts, il y a quelques années, quand ils étaient à la région, ont interdit qu'on climatise les bus parce que ça consommait de l'énergie. C'est une décision, une lubie qui se devient anti-écologique, puisque évidemment, quand il fait très chaud dans les bus, eh bien, les Franciliens reprennent leur voiture. Mmh. Donc vous voyez, je répare les dégâts de cette gauche.
Enfin, et
cette
gauche-là. Les couloirs de bus dans Paris, c'était eux à l'époque, il y a quelques années aussi. Les couloirs de bus, on les a aussi grâce à cette gauche-là.
Quand je suis arrivée, on achetait encore des bus diesel, monsieur Sportouche. Il n'y a rien de pire pour la pollution. Mmh. Moi, j'ai arrêté l'achat des bus diesel et j'ai acheté des bus climatisés. Aujourd'hui, un tiers des bus sont climatisés parce qu'on. Et ils sont propres.
Donc pour revenir à l'abstention.
Pour revenir à l'abstention, parce que c'est important, cette gauche, gauche social-démocrate, qui va s'allier avec les Verts, dont Mme Hidalgo a dit qu'ils avaient un problème avec la République, et qui vont s'allier avec les amis de Mélenchon, c'est-à-dire avec l'extrême gauche, indigéniste, communautariste, eh bien, cette gauche-là, elle peut gagner l'Île-de-France.
Et elle n'est pas républicaine, cette gauche, pour vous ?
Écoutez, quand je vois Mme Autain inviter en 2015 Tariq Ramadan dans un meeting pour me faire battre, je dis que eh bien, ça n'est pas ma conception de la République, non.
Si le résultat est plus serré que prévu, est-ce que vous excluez toujours de faire alliance avec le marcheur Laurent Saint-Martin ? Parce que sur plusieurs points, sur la police par exemple, vous n'êtes pas si éloigné. Vous vous proposez un campus des métiers de la sécurité pour former les policiers municipaux. Lui, une académie régionale. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Est-ce que vous voulez
Ça, c'est sûr que le projet de Laurent Saint-Martin, c'est mon bilan. Donc, il copie tout ce que j'ai fait et il explique que c'est son projet. Donc ça, oui, il faudrait que je demande un copyright. Bon, c'est le roi de la récup, mais il paraît que le recyclage aujourd'hui est important et nous voulons faire de l'Île-de-France une région circulaire.
Mais l'alliance, oui.
Non, on a besoin aujourd'hui d'une femme libre à la tête de l'Île-de-France. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'État a systématiquement sacrifié l'Île-de-France. Vous voyez, quand Emmanuel Macron dit « priorité à Roissy-Picardie », eh bien, ça veut dire que SNCF Réseau n'aura pas les moyens humains pour régénérer plus vite le RERD ou le RERB dans lesquels il y a 1 400 000 franciliens. Parce qu'il faudra mettre des moyens sur Roissy-Picardie. Quand l'État dit « Ah ben on ne payera pas pour mettre le centre Pompidou à Massy parce que c'est l'Île-de-France et que l'Île-de-France est trop riche », eh bien c'est la région qui doit le faire. Donc si vous voulez, et quand il manque un milliard d'euros pour les transports en commun, que dit M. Saint-Martin, rapporteur du budget ? Il dit « Ah ben Bercy ne veut pas ».
Bah, Bercy finalement, il vous l'a donné l'année dernière.
Mais est-ce que l'année dernière, oui, mais cette année, Monsieur Sportouche, je lui ai posé la question. Non, il a dit non. Il a dit, vous aurez 300 millions d'euros, mais le milliard qui manque, vous ne l'aurez pas, ce sera uniquement des avances remboursables. Je ne veux pas vous le donner en cash.
Vous ne ferez pas alliance avec lui.
Non, mais c'est important. Ce que je vous explique, c'est qu'il faut une femme libre qui puisse être un partenaire du gouvernement, mais qui puisse aussi faire des rapports de force avec le gouvernement quand c'est nécessaire pour protéger les Franciliens. Ni au premier tour, ni au deuxième tour. Il faut une femme libre. Une femme libre, c'est une femme sans attache et sans boulet au pied.
La chiricaine que vous êtes, Valérie Pécresse, est-elle toujours pour le Front Républicain contre le RN en toutes circonstances ou pas ?
Absolument, je suis pour le Front Républicain. Et par ailleurs, je pense, vous avez dit que j'étais chiricaine, je pense que la gauche a rendez-vous avec l'histoire dimanche 20. Elle a rendez-vous avec l'histoire parce qu'elle va devoir choisir la gauche républicaine, la gauche social-démocrate. Elle va devoir choisir entre s'allier ou ne pas s'allier avec les amis de M. Mélenchon.
Ah, avec mes amis, M. Mélenchon. Mais en PACA, par exemple, vous dites quoi à vos électeurs ?
Je pense qu'aujourd'hui, l'extrême gauche de M. Mélenchon causerait autant de désordre en France que le Rassemblement national de Marine Le Pen.
Ah ben c'est d'accord. Donc je mettais une égalité entre les deux.
Je ne mets pas une égalité, ils n'ont pas la même histoire, mais ce serait le désordre et ce serait la faillite économique.
Juste très rapidement, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo dit qu'une femme peut changer le rapport au pouvoir. Elle esquisse les bases d'un projet présidentiel dans un entretien à l'hebdomadaire Le 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Femme peut changer le rapport au pouvoir.
Écoutez, je ne crois pas que ce soit uniquement la féminité qui fasse la compétence et l'expérience, et je suis radicalement opposée à sa politique d'écologie.
Mais une femme à l'Élysée, ça serait une bonne chose ?
Pas n'importe laquelle, et certainement pas Marine Le Pen.
Et vous ?
Écoutez, à ce stade, moi, vous l'avez compris, ma priorité, c'est l'Île-de-France, puisque j'appelle même l'équipe de France équipe de l'Île-de-France.
Des fois, dans l'Île-de-France, on entend beaucoup France. Merci beaucoup.
Absolument.
Donc peut-être que ce sera vous, candidate. Merci Valérie Pécresse, bonne journée à vous.
En tout cas, une femme libre, ça ferait un bon slogan pour une présidentielle. Merci à tous les deux. Sur le stationnement payant des deux roues à Paris, décidé par Anne Hidalgo, c'est de l'environnement antisocial et punitif, puisque les Franciliens seront eux aussi surtaxés, nous a dit notamment Valérie Pécresse. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et dans un instant, nous surfons sur les lapsus politiques avec Cyprien Signy. Merci à tous les deux.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy. Vous êtes inspiré par les lapsus ce matin.
Oui, alors je ne sais pas si c'est l'échéance du premier tour des régionales qui les met sous pression, mais c'est un festival de lapsus. Allez, pas plus tard qu'il y a 10 minutes, ici même, Valérie Pécresse.
Quel plus beau message sur l'antiracisme, la lutte contre les discriminations, que le visage de l'île de France. De... lapsus révélateur. Que le visage de l'équipe de France.
Eh oui, mais alors hier, on a vu un grand Xavier Bertrand, hyper, super concentré sur LCI. Il avait bien préparé toutes ses punchlines, genre celle-là.
Une nouvelle fois. Pas de tambouille et pas de magouille.
Sinon, ça vous gratouille. Oui, avec Xavier, c'est. C'est Bertrand. Et puis alors derrière, il a loué l'une de ses grandes qualités.
Mais vous savez, qu'est-ce qu'on me reproche? D'être clair? Les gens que je rencontre me disent, au moins vous, vous avez été clair.
Oui, la clarté. Xavier Bertrand, il est clair. Et là, il apprend sa petite voix douce. Vous savez, comme à chaque fois qu'il s'apprête à dire un truc super profond. Une grande respiration et il touche avec la phrase qui tue qu'il a préparée depuis des semaines. Attention, chef-d'œuvre.
La France n'ira bien que quand ceux qui ne vont pas bien n'iront pas mieux. Voilà.
Alors attends, tu peux nous la remettre alors, là parce qu'il est tout, j'ai pas tout compris.
Voilà. La France n'ira bien que quand ceux qui ne vont pas bien n'iront pas mieux. Voilà.
Voilà. Alors. Étudions ensemble cette phrase. La France n'ira bien que quand ceux qui ne vont pas bien n'iront pas mieux. Oui. Et ben après une longue analyse, une conclusion s'impose. Je crois que c'est un non-sens. Hein. Oui. Ou alors c'est fait exprès, il a fait du Nicolas Sarkozy. Oui, parce que Nicolas Sarkozy, niveau phrase qui ne veulent rien dire, il reste intouchable avec celle-là.
Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
Oui, alors celle-là, hein, ça fait 100 fois que je l'entends, j'ai toujours pas compris. Après hier, je sais pas ce qu'ils avaient, la canicule peut-être, hein, parce que Thierry Mariani, il nous en a fait une belle aussi, c'est à propos du possible genou posé des Bleus à terre avant le match.
Je vois pas quel est le message politique pour la France. On est tous contre l'antiracisme.
Hop, on est tous contre l'antiracisme. Joli, quand t'es au Rassemblement National en plus. Voilà, heureusement, dans la foulée.
On est tous contre l'antiracisme. Je veux dire, on est tous pour l'antiracisme.
Attention,
on est tous pour l'antiracisme.
Oui, attention, lapsus. Mais qu'il se rassure, ce ne sont ni les premiers, ni les derniers à s'en mêler les pinceaux avec des lapsus gênants hein, de Gabriel Attal récemment.
La ministre de la Mer a présenté deux ordonnances. La première porte sur l'ordonnance de Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
Épaves, joli. Occultissime Rachida Dati qui a un problème avec l'inflation.
Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle.
Pas mal. En passant par Bruno Le Maire et son ministre de l'Intérieur de l'époque.
Nous sommes en train de recueillir toutes les demandes des communes qui sont concernées avec le ministre de l'Intérieur Christophe Colomb. Dès que nous aurons l'intégralité des demandes,
là, on arrive en Amérique.
Mais il a découvert l'Amérique aussi.
Bien sûr.
On dit que parfois, mieux vaut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Mais ça, quand on est politique, c'est compliqué. Hein.
Et on vous retrouve dès 18h de RTL Soir avec Thomas Soto.
À ce soir.
RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, menace sur le panier de course.
Les industries alimentaires réclament une augmentation des prix pour absorber la flambée des coûts des matières premières. Un euro qui démarre sur des chapeaux de roue pour les Bleus, 1-0 contre l'Allemagne. Et puis c'est le match diplomatique du jour, Joe Biden face à Vladimir Poutine.
La météo Louis Baudin, l'orage arrive.
Voilà, avec du soleil, de fortes chaleurs encore dans la plupart des régions. Mais effectivement, entre cet après-midi et ce soir, dégradation orageuse dans l'ouest, hein, de la Bretagne à l'Aquitaine, puis du Massif central à l'Île-de-France et au Nord-Pas-de-Calais ce soir. Attention, parfois ces orages seront violents. Les températures avant les orages auront encore le temps de grimper. 20 à 24 degrés près de la Bretagne, mais encore 30 à 35 degrés dans toutes les autres régions.
Louis Baudin.
RTL Matin.
Les prix des aliments vont-ils augmenter dans les supermarchés? C'est un bras de fer qui vient de commencer entre les industriels et les grandes surfaces. En cause, la hausse continue depuis un an des prix des matières premières. Le lait, le sucre, l'huile et même les viandes, tout flambe. La crise sanitaire a considérablement réduit la production. Bonjour Martial Huon.
Bonjour.
Les industriels demandent une hausse des tarifs dans les rayons de 9%.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous avez une flambée des cours des matières premières alimentaires depuis quelques mois, plus 20% sur les graines de moutarde depuis un an, plus 22% sur le blé en 6 mois, plus 60% sur le maïs. À ça, il faut ajouter la pénurie de carton et de plastique pour les emballages et puis une foire d'empoigne sur le prix des conteneurs au départ des pays comme la Chine qui vend la cargaison au plus offrant. Tout ça cause un surcoût, bien sûr, qui n'est pas répercuté aujourd'hui dans le prix en rayon parce que vous savez qu'en France, les prix sont négociés en début d'année entre les distributeurs et les fournisseurs et on n'y touche plus. Les industriels de l'agroalimentaire représentés par l'ANIA, vous en parliez, demandent donc une hausse de 9% sur les produits finis, ceux qu'on achète. Mais Michel-Édouard Leclerc, par exemple, a déjà dit non.
Et si nous, consommateurs, ne payons pas cette hausse, qui va l'absorber ?
Les industriels, dans un premier temps, puisque à terme, ça finira sans doute par se retrouver dans nos chariots l'année prochaine. Alors, quand on dit une hausse de 9%, il faut savoir que ce n'est pas forcément 9% de plus sur les prix, parce qu'il y a ensuite les ristournes commerciales qui sont négociées et qui peuvent représenter un tiers du prix. L'ILEC, qui regroupe d'autres industriels de la grande distribution, estiment que ce sont un quart à peu près des entreprises qui sont vraiment impactées. Elles vont donc absorber le surcoût en rognant sur leurs marges. Ça risque de provoquer la disparition de certaines PME et puis ça peut finir par occasionner bien sûr une hausse des étiquettes de l'ordre de 1% d'ici un an.
Merci beaucoup pour ces explications, Martial You.
Et nous ferons le point à 8h20 avec le directeur exécutif des achats et du marketing de Lidl France. RTL, il est 8h03.
L'euro sur RTL.
Ciel dégagé pour les Bleus.
Pas un nuage en vue pour l'instant, juste un ULM qui a joué les invités surprises avant le coup d'envoi dans le stade de Munich, un engin de Greenpeace. On a d'ailleurs frôlé le drame puisqu'il s'est pris dans un câble et a fait 2 blessés légers. À part ça, les Français ont été à la hauteur de leur statut de champion du monde, 1-0 contre les Allemands. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Vous étiez au commentaire hier soir au stade de l'Allianz Arena. Vous me le disiez tout à l'heure, on a retrouvé nos Bleus de 2018.
Exactement, l'esprit de Moscou, ils habitent encore les mêmes attitudes, le même esprit de corps, concentration, sacrifice collectif, des joueurs transfigurés par ce maillot bleu à l'image de Raphaël Varane qui a connu une saison difficile au Real Madrid et qui là avait retrouvé son costume de patron de défense. Que dire aussi de Paul Pogba, rayonnant, serein, tout simplement heureux dans cette équipe.
C'est vraiment cette vie de groupe qui m'aide à être moi-même et à me sentir libéré et à être bien aussi sur le terrain. Franchement, être entouré de ces joueurs-là, de cette famille-là, ça peut que être un plus pour moi. Regardez qui est à côté de moi, c'est N'Golo, il y a Adrien, il y a Antoine et derrière c'est solide. Franchement, c'est vraiment tout le monde.
On le sent, ce groupe a encore faim de titres, de trophées. Ça passe par une implication totale pendant un mois. Ce n'est que le début de l'aventure. Dès samedi, il y aura la Hongrie, moins forte sur le papier que l'Allemagne, mais qui a failli accrocher le Portugal. Ça s'est joué à 6 minutes près avant qu'il ne craque et ne prenne 3 buts en toute fin de match.
Merci beaucoup Philippe Sanfourche en direct de Munich. Et puis, c'est l'image qu'on n'aura pas vue. Les Bleus n'ont finalement pas mis un genou à terre. Ils avaient pourtant d'abord annoncé vouloir faire ce geste pour dénoncer les discriminations et les violences policières, ce qui a été critiqué par une partie de la droite en France, une polémique que regrette Didier Deschamps.
De toute façon, quoi qu'on fasse, les joueurs, quoi qu'ils disent, ça amène de l'interprétation, il y a toujours de la récupération, il y a un tel climat où ça part dans tous les sens, donc restons, c'est du football, c'est que du football. Moi je vous le dis depuis un moment, je trouve qu'il y a une montée en puissance de l'agressivité, de la haine, qui est très dangereuse. Ça serait bien de baisser un peu le volume pour retrouver un peu plus la raison de part et d'autre.
Didier Deschamps avec Julien Fautrat.
En France, les supporters n'ont pas perdu une miette de cette soirée de fête.
On a un peu oublié les gestes barrières pendant quelques heures, il faut dire la vérité, comme ici sur les grands boulevards parisiens, reportage de Vincent Serrano.
Dès le coup de sifflet final, les supporters ont délaissé table et chaises, celle des terrasses pour se ruer sur la chaussée. Scène de liesse pendant plusieurs minutes au milieu de laquelle Corentin savoure le moment.
C'était important pour ça, on voulait retrouver ça après justement tout ce qui était le Covid. On n'oublie pas forcément, ça reste dans le fond de nos têtes, mais dans des victoires comme ça, on se dit que c'est beau et on se dit qu'on est content de vivre ça tous ensemble et de pouvoir le retrouver après un an et demi. Retrouver les gens, de voir qu'ils sont tous ensemble, qu'ils sont rassemblés, qu'ils sont ensemble, qu'ils vivent ensemble, de voir qu'il y a une harmonie collective et ça c'est beau.
Quitte
ça,
parfois c'est... Colombe à oublier un peu les gestes barrières.
Un peu, mais c'est exceptionnel. On est tellement content de la réouverture des bars et on est tellement content de fêter ça. L'euro, le début, enfin, c'est la joie. Il fait chaud, il fait beau. On a juste envie de sortir, quoi. Franchement, on était tous levés et juste la joie de bonne humeur. On oubliait les gestes barrières, ok, mais franchement, ça faisait tellement du bien qu'on oubliait tout.
Des supporters qui ont joué les prolongations, 30 minutes maximum avant que la police arrive sur place, sur ces grands boulevards, pour inviter les derniers fêtards à s'engouffrer dans les bouches de métro. Ce que Corentin et ses amis ont fait en titubant légèrement.
Ça zigzaguait vers la bouche de métro. Reportage de Vincent Serrano pour RTL.
Dans un instant, les régionales et le retour de Jean Castex. Il sort de son isolement pour battre la campagne. On vous explique tout ça avec William Galibert.
RTL Matin.
8h08, la suite du journal de Jérôme Florin.
RTL. Régional 2021.
journal de campagne.
Il reste donc 3 jours de campagne avant le premier tour.
Et on fait le point sur les derniers échos avec vous, William Galibert. Bonjour.
Bonjour.
Et on commence donc avec un revenant.
Mais oui, c'est Jean Castex. Le Premier ministre voulait se lancer à corps perdu dans cette campagne. Pas de bol. Cas contact pour la 3e fois. Il a dû s'isoler pendant une semaine entière. Mais là, ça y est, il est enfin libre. Il a fait un ultime test PCR ce matin, négatif. Et donc, pour soutenir les candidats de la majorité, Jean Castex sera ce soir en Centre-Val de Loire, demain matin dans le Grand Est, demain midi en Bourgogne, demain soir à Lyon et vendredi en Nouvelle-Aquitaine. Attention au coup de chaud.
La sanction du jour.
Pour Stéphanie Kerbar, députée LREM de Seine-Maritime, elle a monté une liste dissidente pour ses régionales en Normandie. Elle vient d'être exclue de La République En Marche.
L'invité surprise.
Ou plutôt les invités surprises. Ah. Emmanuel Macron sera demain dans la Somme et dans l'Aisne. Bref, il sera chez Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Quel heureux hasard à quelques jours du premier tour. Et dans les bagages du président...
Moi, ce que j'aime en lui, c'est que c'est un personnage stadalien très ambitieux. Oh là là, il est ambitieux, il en veut.
Et oui, c'est le comédien Fabrice Luchini qui va se déplacer avec Emmanuel Macron. Ils vont visiter notamment la maison de Jean de La Fontaine. Je vous laisse décider lequel des deux est le corbeau et lequel est le renard.
Et puis la boulette du jour.
Celle d'un attaché de presse un peu trop zélé, celui de Laurent Wauquiez. Il a nettoyé la page Wikipédia de son patron, candidat à sa réélection en Auvergne-Rhône-Alpes. Il a enlevé les éléments les moins flatteurs, mais la manip n'a pas échappé à nos confrères de rue 89. Et là aussi, ça rappelle une autre fable de La Fontaine. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf.
Merci beaucoup William Galibert. Et puis à suivre ce soir sur LCI, en partenariat avec RTL, le 3e débat des régionales, la grande confrontation avec les candidats de Provence, Alpes, Côte d'Azur. RTL sera d'ailleurs demain en direct de Toulon. Ce sera notre 3e étape après Roubaix et Melun.
8h10, Rémi Daillet est arrivé ce matin en France.
Son avion s'est posé à Roissy peu après 6h en provenance de Singapour. Cette figure des mouvements complotistes est soupçonnée d'avoir orchestré l'enlèvement de la petite Mia. Il y a 8 ans, dans les Vosges, en avril dernier. Il était visé par un mandat d'arrêt international. Il devrait être mis en examen.
Actualité internationale, une rencontre très attendue aujourd'hui à Genève.
En marge du sommet de l'OTAN, Vladimir Poutine et Joe Biden doivent s'entretenir dans la journée. Première rencontre face à face entre les présidents américains et russes. La brigade RTL avec vous, Émilie Beaujard. Bonjour.
Bonjour.
Cette rencontre a lieu dans un contexte de relations très tendues entre les deux hommes.
Oui, selon les experts, les relations n'ont même jamais été aussi mauvaises depuis la fin de la guerre froide. Et cela s'est accentué avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, qui est revenu à une politique de fermeté vis-à-vis de Moscou. Les deux hommes, pourtant, se connaissent depuis plus de 20 ans, mais leurs relations ont toujours été houleuses. Et déjà en 2001, alors sénateur, Joe Biden expliquait qu'il ne faisait pas confiance à Vladimir Poutine.
Quels sont les sujets de discorde entre les deux chefs d'État ?
Alors il y a les soupçons d'ingérence russe dans les élections américaines de 2016, des cyberattaques contre des entreprises américaines qui se multiplient ces derniers mois et qui seraient menées par des groupes de hackers russes. Et il y a le sujet de l'opposant russe Alexei Navalny, emprisonné depuis plusieurs mois. Et surtout, il y a les mouvements de troupes russes à la frontière avec l'Ukraine qui inquiètent les États-Unis et l'Europe. Plus généralement, on se rapproche en fait de l'époque de la guerre froide avec d'un côté les États-Unis et l'Europe qui cherchent à soutenir les transitions démocratiques en Europe de l'Est et de l'autre côté les Russes qui ont peur de perdre leur influence dans cette partie du monde.
Émilie, très franchement, est-ce que ces sujets seront abordés frontalement ?
Alors, il y a peu de chance. Tout ce qu'on sait, c'est que le président américain a promis de dire au président russe quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir. Vladimir Poutine, lui, n'attend rien de concret. Ses conseillers expliquent que cette rencontre en elle-même est déjà une victoire pour les Russes qui se positionnent comme un acteur incontournable des relations internationales. Il y a donc peu de chance que Joe Biden et Vladimir Poutine sortent bras dessus de cette rencontre. D'ailleurs, il n'y a pas de conférence de presse commune prévue à l'issue de cette réunion. Preuve que les relations russo-américaines ne vont pas se réchauffer tout de suite, mais ce sommet va sans aucun doute donner le ton de leurs relations ces prochaines années.
Brigade RTL signée Émilie Beaujard. Et puis cette sortie de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, annonce qu'il se rendra le 30 juin prochain au Texas pour visiter la zone frontalière avec le Mexique, là où il avait lancé la construction d'un mur anti-immigration. Les traversées illégales de la frontière ont bondi depuis l'élection de Joe Biden. 180 000 arrestations le mois dernier.
L'histoire du jour.
On peut dire qu'il a eu le nez creux, ce particulier qui a acheté il y a quelques années un tableau de David Bowie
dans un magasin de l'Ontario, un portrait très abstrait de femme, presque une ébauche, acheté 5 dollars canadiens à l'époque, un peu plus de 3 euros. Il vient de le mettre aux enchères. L'œuvre a très vite dépassé les 17 000 dollars canadiens, plus de 11 000 euros. Et ça ne va pas s'arrêter là, puisque la vente en ligne s'achève jeudi la semaine prochaine. On va être assez sincères, ce n'est pas la Joconde, mais c'est signé Bowie. Et bon, ça vaut tout l'or du monde.
Il sortait de table, non?
Je ne sais pas, on dirait une nappe, oui, mais c'est un tableau de Bowie. Je vous offre la copie, en tout cas.
Voilà. Très sensible. Et c'était donc le journal de Jérôme Florin. Dans un instant, Jean-Mathieu Pernin avec une fake news concernant la fête de la musique et Michel Simès qui va nous parler de l'évolution du coronavirus maintenant que nous avons les vaccins. Merci d'écouter RTL. Bonne journée à tous.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Il est 8h15, c'est le moment de nous intéresser du côté des intox et des fausses informations avec vous, Jean-Mathieu Pernin. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, la fête de la musique n'est pas annulée, se tiendra bien le 21 juin prochain.
Oui, parce que c'est un message, figurez-vous Yves, qui circule à bas bruit, mais qui se fait constant sur les réseaux sociaux, celui d'une annulation de la fête de la musique. Mmh. Alors en disant ça, j'ai bien conscience que tout le monde ne reçoit pas l'information de la même manière. D'un côté, vous avez ceux qui se disent « Ah bah mince, on répète depuis 2 mois avec mon groupe de flûte occitane oui. » et de l'autre côté, ceux qui affichent un grand sourire car ils ne supportent pas ce guitariste débutant massacrant un autre monde de téléphone sur le trottoir d'en face. Alors en fait, eh bien figurez-vous que tout le monde a raison car oui, la fête de la musique va bien se tenir le 21 juin, mais elle est également souvent reportée, voire carrément annulée dans certaines communes. Voilà D'accord. pourquoi des internautes amalgament le sort de leur propre localité à la situation nationale.
Alors, il faut être précis, dès l'annonce du protocole sanitaire, des villes ont préféré annuler, elles, la fête de la musique.
Voilà, un protocole présenté le 8 juin et dès le 10 juin, par exemple, Dax, dans les Landes, annonce ne pas organiser de fête de la musique à cause de règles sanitaires qui iraient à l'encontre de l'esprit populaire et spontané, explique la municipalité dans un communiqué relayé par le journal Sud-Ouest. Même chose à Agen ou Strasbourg, en cause donc le protocole sanitaire mis en place par le ministère de la Culture. Alors, à peu près le même que l'année dernière, c'est-à-dire une assistance assise pour les spectacles, interdiction des concerts dans la rue, les bars et les restaurants, un pass sanitaire obligatoire dans les lieux accueillant plus de 1000 personnes et toujours un couvre-feu à 23h. Donc cette année, la fête de la musique, c'est l'autre nom de j'allume la radio, je danse dans mon salon. Beaucoup de villes privilégieront des concerts organisés, voire repousseront l'événement, comme Toulon. Sur Twitter, la ville a expliqué que la fête de la musique se tiendra quand les rassemblements festifs et populaires pourront se tenir.
Et ben justement, ce protocole est-il tenable?
On se souvient des images l'année dernière, notamment à Paris, de foules dansantes, d'absence de masques, de verres partagés, énormément commentés, critiqués, la crainte d'un cluster. Et en fait, non. La fête de la musique représentait alors le premier grand événement populaire, même très encadré d'après Covid. On ne savait pas encore que l'année à venir allait être grise. Difficile donc de maintenir ces règles quand la fête est là. Le 21 juin sera en fait une sorte de test grandeur nature.
Jean-Mathieu Pernin, il est 8h17, voici venir Michel Simès.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Heureux de vous retrouver, Michel, bonjour.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous penchez sur l'avenir du coronavirus, responsable bien entendu de la Covid-19. Tout indique qu'on ne va pas s'en débarrasser facilement, mais tout laisse aussi à penser qu'il sera moins virulent à l'avenir.
Oui, nous sommes là à la confluence de plusieurs histoires. L'histoire des pandémies, l'histoire de la recherche, l'histoire de la vaccinologie, et j'en oublie sans doute. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes ces histoires nous ont appris qu'en matière de santé, même s'il est toujours difficile de jouer les prédicateurs, on peut s'inspirer de ce que l'on sait, de ce qui est vérifiable pour échafauder des scénarios d'avenir. Et parmi ces scénarios, il en est un qui émerge du maquis de l'imprévisible. On le doit à une équipe de chercheurs de l'université américaine d'Atlanta.
Alors, que nous enseigne cette équipe?
Alors que si nous n'allons pas nous débarrasser du coronavirus responsable du Covid du jour au lendemain, la maladie dont il est responsable s'apparentera à l'avenir à un simple rhume.
Ouais. Alors, comment les chercheurs parviennent-ils à une telle conclusion?
D'abord, on sait que le coronavirus qui nous préoccupe est semblable à d'autres coronavirus responsables des rhumes. Ils affectent peu les enfants, y compris ceux qui n'ont pas d'immunité préalable. Et les adultes, quand ils sont réinfectés, développent une forme moins grave de la maladie. Ensuite, il faut bien comprendre que tout repose sur notre immunité de groupe. Dès lors que le taux de vaccination augmente ou que la proportion de personnes infectées grandit, cette immunité progresse. Conséquence, notre système immunitaire s'en trouve fortifié et les infections sont de plus en plus bénignes au point de s'apparenter donc, selon nos chercheurs, à un simple rhume.
Donc le virus continuerait de circuler mais serait confronté à des immunités qui en limiteraient les dégâts, c'est ça ?
C'est exactement ça. On pourra transmettre le virus mais les cas graves de Covid se raréfieront. Pour bien comprendre les choses, je me référer à la fameuse grippe espagnole qui date d'un siècle et avait touché un tiers de la population mondiale et tué entre 3 et 5% de l'humanité. Cette grippe s'est arrêtée en tant que pandémie. Mais il ne faut pas oublier qu'elle nous a laissé un héritage sous la forme d'un virus endémique, aujourd'hui encore responsable d'épidémies saisonnières. Ce qui fait que de nos jours, bien des virus que l'on voit passer soit en endémie, soit en épidémie saisonnière, sont des descendants du virus responsable de la grippe espagnole. C'est le même virus, alors certes il a muté, il a évolué, mais il s'agit bien du même virus. Ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire qu'une pandémie meurtrière peut s'arrêter, mais le virus, lui, perdurer, ce qui risque de se passer avec le virus actuel une fois qu'il aura achevé son cycle. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui le dit, le virus est avec nous pour toujours. Simplement, il sera beaucoup moins costaud, notamment grâce à la vaccination.
Merci beaucoup Michel. Il est 8h20. Menace sur le panier de course. Les professionnels des industries agroalimentaires réclament une hausse des prix dans les rayons des supermarchés. Ils disent faire face à une flambée des matières premières. Nous serons avec Michel Biérot, le directeur des achats du groupe Lidl France, avec nous dans un tout petit instant sur RTL. A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h23. Bonjour Michel Biérot.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL et en direct. Vous êtes le directeur exécutif des achats et du marketing chez Lidl France. Les industries de l'agroalimentaire, on l'explique à nos auditeurs depuis ce matin, tirent le signal d'alarme et réclament une hausse des prix en magasin d'environ 9%. 9%. C'est, nous dit-on, pour répercuter la flambée de la hausse des matières premières. Chez Lidl, comment accueillez-vous cette proposition et est-ce que vous acceptez cette hausse ?
Alors écoutez... Il faut en discuter parce que je pense que mes équipes, en tout cas, vont regarder ça avec beaucoup de discernement. Si un industriel vient avec une hausse de 9% et nous démontre avec beaucoup de transparence, parce que c'est la clé, la transparence, qu'il y a une explosion du coût de l'aliment, par exemple pour la volaille, ce qui s'est passé au mois de janvier, bien évidemment qu'on va accepter la hausse. Si au contraire un industriel de soda très connu nous demande une hausse de 10% sans aucune explication, sans aucune transparence par rapport à cette hausse, non, je ne vais peut-être pas l'accepter. Donc voilà, il faut faire ça avec beaucoup de discernement. Il faut voir... aujourd'hui, le monde agricole est en grande difficulté. Il faut les soutenir. Donc tous les produits qui ont une composante agricole, il faut regarder ça de près. Et s'il y a de la transparence en face de la part des industriels, bien évidemment qu'on répondra à la hausse.
Vous nous dites, nous sommes prêts à comprendre ce qui concerne l'alimentaire parce que nos agriculteurs ont des difficultés, mais on n'acceptera pas
tout et n'importe quoi.
Voilà, tout et n'importe quoi,
exactement.
C'est très clair. Comment ça se passe dans ces cas-là, les rapports avec les fournisseurs, très honnêtement ?
Bah, c'est pas simple, c'est pas toujours simple.
On est au marché, on discute le prix, c'est aussi...
Oui, c'est un rapport de force. Moi, j'ai besoin de 9% et nous, on répond, bah oui, mais pourquoi pas ? Mais il faut nous montrer pourquoi vous avez besoin de 9%. Une fois de plus, il n'y a pas de transparence dans le monde industriel. Il y a une opacité totale pour la plupart. Quand on me montre les choses, quand on nous explique les choses, moi, j'ai aucun problème à payer une hausse.
Alors, on nous cite des chiffres qui sont quand même très impressionnants. Plus 22% sur le blé, plus 60% sur le maïs. Flambée des prix, par ailleurs, dans le coût des transports. Ouais. Je vois que vous abondez. Vous êtes au courant, en fait.
Bien évidemment.
Et vous suivez, bien entendu,
bien évidemment.
Ces cours-là.
En janvier, la volaille a pris 10%. On a payé 10%. Mais pourquoi ? Parce qu'on a eu des discussions avec l'interprofession en vol qui nous ont démontré que l'aliment a explosé. Une volaille, le prix d'une volaille, c'est 70% l'aliment. Oui. Donc si l'aliment explose de 50%, forcément, les 10%, il faut les accepter. Sinon, demain, de toute façon, on n'aura plus de volaille dans nos magasins. De volaille française. Alors, bien sûr, on peut acheter de la volaille au Brésil et en Ukraine.
C'est sûr.
Mais ce n'est pas le but.
Bon, vous avez d'autres exemples à nous donner que vous avez suivis ?
Oui, le steak haché, par exemple. On a donné une hausse de 50 centimes sur le frais, 60 centimes sur le surgelé. Parce que là encore, il y a eu de la transparence de la part de l'amont et qui nous ont démontré qu'il y a une hausse de la matière parce que l'aliment a explosé et donc on paye. On n'a pas de problème à payer. Je veux juste de la transparence. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. D'où notre soutien total à la proposition de loi de Grégory Besson-Moreau qui est actuellement en consultation à l'Assemblée. Et il faut que cette loi passe. C'est sauvegarder la souveraineté alimentaire. C'est surtout sanctuariser le prix ou le coût de production de nos éleveurs. À partir du moment que cette loi est passée, demain, on n'aura plus de problème. Le monde agricole sera sauvegardé. Et après, bien sûr, nous, on continuera les discussions avec les industriels.
Excusez-moi, comment continuer à avoir des prix bas en magasin quand on a des hausses de cet ordre, plus 22% sur le blé, plus 60% sur le maïs, et vous nous avez vous-même spontanément cité la volaille?
Tout simplement en gérant au mieux nos coûts de structure, nos coûts logistiques. Parce que vendre pas cher ne veut pas dire acheter pas cher. On peut, chez Lidl on le démontre, vivre avec moins de marge que d'autres. Tout est une question de marge. Si on répartit la valeur, tout va bien. Moi je démontre depuis 5 ans qu'on peut avoir une équation positive en rémunérant correctement des éleveurs qui en ont besoin parce qu'aujourd'hui ils sont en dessous de leur coût de production et en vendant à un prix parfaitement correct pour les consommateurs.
Donc vous nous dites, ça se joue chez nous, même si nous restons lucides sur les éventuelles baisses ou augmentations qu'on nous réclame.
Ça se joue chez nous et chez les industriels. Il y a deux maillons qui doivent se partager la valeur. Mais l'éleveur ne doit pas être la variable d'ajustement. Il faut que l'industriel mette sa main à la poche. Il y a des industriels aujourd'hui, des multinationales qui sortent des résultats nets à 18-20%. Pour moi, c'est indécent.
Alors, vous nous dites, on va voir ça au coup par coup, parce oui. qu'il est normal qu'on évalue les choses. Michel-Édouard Leclerc, lui, il a été catégorique, il a dit, je refuse toutes ces hausses, et je suis le spécialiste du prix bas.
On ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire, je refuse toutes les hausses. Et je pense qu'il a plus ou moins nuancé quand même. Le monde agricole, aujourd'hui, est en grande difficulté. Tous les produits qui ont une composante agricole dans leur composition, on va les regarder de très près, on va discuter très, très, très en profondeur avec tous les industriels, et bien évidemment qu'on répondra aux hausses. Tout le reste, il faut nous démontrer pourquoi il y a une hausse, et il nous faut de la transparence.
Les prix, normalement, et les négociations se font annuellement, hein, c'est bien ça?
Alors, dans les marques nationales, ils se font au 1er mars de chaque année, oui. Dans les marques nationales. Mais pas dans la marque de distributeur. Nous, on négocie au fur et à mesure, au fil de l'eau. S'il y a une hausse des matières, on peut se remettre autour de la table n'importe quand dans l'année.
En 2021, les entreprises alimentaires ont enregistré le taux de marge le plus bas de leur histoire. C'est semble-t-il, l'effet Covid. Que vous disent vos fournisseurs, vos producteurs, et puis finalement tous les réseaux qui provisionnent les magasins en ce moment?
Écoutez, là encore, nous, on est très proche de nos fournisseurs. On discute tous les jours. On a 90% de marques de distributeurs. Donc, les marques nationales et cette fameuse négociation du 1er mars ne nous concernent que très peu, finalement.
Oui.
Et donc, avec les marques de distributeurs, sincèrement, ça se passe très bien. Bien évidemment, il y a toujours un moment de la négo où il va tirer la couverture un peu plus vers lui ou vers moi. Mais encore une fois, de la transparence. Moi, je suis prêt à avancer. Il nous faut les fournisseurs. Sans fournisseurs, je n'ai plus de produits en magasin.
Oui.
Donc, ce sont des partenariats qu'il faut construire. Et sans ces partenariats, on n'y arrivera pas. Mais des partenariats de confiance et de transparence.
Alors, confiance et transparence, j'ai envie de vous dire, c'est un très beau programme. Voyez, on est déjà dans la présidentielle. En même temps, c'est aussi du rapport de force, de la contrainte à un moment ou un autre. Il y a un perdant, il y a un gagnant. C'est pas facile. Hein. Moi, je veux bien le... On n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans la distribution.
Ouais, c'est vrai, on n'est pas chez les bisounours. Voilà. C'est vrai. Vous avez raison, mais il faut aussi distinguer les PME.
Oui.
Qui sont la majorité de nos fournisseurs, et les multinationales. C'est eux qui aujourd'hui, ce sont l'ANIA, l'ILEC, qui font des lettres en disant il faut 9% de hausse, ok, moi je veux bien.
Mais avec Vous nous dites que les gros lobbies se sont finalement mobilisés.
Exactement.
Pour utiliser les difficultés que connaissent effectivement, puisque vous nous dites depuis le début de cet entretien, des plus petites entreprises et les individuels qui travaillent.
C'est exactement ça.
Alors,
c'est exactement ça.
Il y a une question qui touche notamment le cartonnage qui vient de Chine essentiellement. Mm-hmm. Comment ça se passe avec eux? Est-ce qu'il y a des contraintes de prix particulières? Est-ce que ça monte en ce moment? Enfin voilà, tout le monde se réveille. Et généralement, quand tout le monde se réveille, les prix augmentent.
Il y a tout ce qui provient de Chine aujourd'hui explose, que ce soit le plastique, que ce soit le carton et beaucoup d'autres produits.
Vous voulez dire les prix?
Les prix, oui, pardon. Oui.
Comme je vous en prie, je vous le fais préciser.
Mais là encore, si on nous démontre que le carton... Parce que nous, quand on achète un produit, quel mm-hmm. qu'il soit, je paye dans le prix du produit le carton qui l'emballe, oui. le suremballage, je paye absolument tout, le transport, tout. Donc si on me démontre que le carton a augmenté de 20% et que ce carton représente 3% dans mon produit,
oui.
du prix du produit, oui, je l'accepte. Mais il faut me le démontrer.
Les entreprises alimentaires sont-elles, d'après vous, vraiment en difficulté?
On a passé une année 2020 exceptionnelle dans le monde de la distribution alimentaire. 2021 s'annonce très bonne. Moi, je ne vois pas de difficulté. On a aujourd'hui des chiffres indécents par rapport à des commerçants qui ont dû fermer leurs portes pendant plus d'un an. La distribution française, tout va bien. Et 2021, les premiers mois sont exceptionnels. L'année s'annonce très très bonne.
J'aimerais qu'on ne se sépare pas sans se projeter dans l'avenir. Beaucoup s'interrogent sur ce qu'est l'avenir de nos magasins, quelle que soit leur taille, sur la modernité qu'on peut y mettre demain et sur la façon dont on fera nos courses. Est-ce que ce sont des choses qui vous préoccupent et est-ce que Lidl est de la partie pour nous faire vivre des évolutions bien particulières, et si oui, lesquelles ? Vous comprenez ma question, hein ?
Bien sûr. 2020 a chamboulé pas mal de choses. L'online a explosé. Les clients, je pense, continuent à... D'ailleurs, c'est les chiffres.
Donc, chez Lidl aussi, on fait ses courses sur le net.
Pas encore, pas encore. Vous pouvez acheter du vin chez Lidl sur le net. Vous pouvez acheter votre voyage en France sur le net, mais pas encore le reste.
Mais pas mon panier repas.
Non, parce que c'est. Faut faire attention. On y réfléchit. On a un groupe de projets qui travaille sur tous ces sujets-là. On y réfléchit, mais faut faire attention parce que quand moi je vends une perceuse en magasin et que je fais venir un consommateur qui remplit le caddie par ailleurs, si demain je lui offre cette ou je lui propose en tout cas cette perceuse sur de l'e-commerce, il remplira plus le caddie sur l'e-commerce. Donc voilà, il faut bien regarder les tenants, les aboutissants, il faut analyser ça de près et le faire intelligemment. Aujourd'hui, tout va bien, on a une croissance très forte, et donc pas d'urgence pour nous.
Merci beaucoup Michel Biérot, je rappelle que vous êtes directeur exécutif des achats et du marketing chez Lidl et que vous nous dites que vous allez voir au coup par coup comment ça va se passer pour les hausses et que vous ne confondrez pas les multinationales avec les petits producteurs.
Merci Yves Calvi.
Bonne journée à vous, vous êtes le bienvenu sur RTL, il est 8h32, on va faire un point sur notre météo à 7 jours avec Louis Baudin. Les orages sont désormais dans le paysage. A tout de suite.
Passez une bonne journée sur RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL Matin.
Alors, nous ne sommes pas encore à Cannes, mais il y a une sorte de festival qui se prépare, n'est-ce pas ? Qui est le festival des orages.
Exactement.
Louis Baudin, expliquez-nous
c'est
tout ça pour notre météo à 7 jours.
Ça, effectivement, un festival d'orages et qui va s'installer sur la France au cours de ces prochains jours. C'est vrai, alors ça va commencer aujourd'hui sur l'ouest. Ça a même déjà commencé dans le sud-ouest. On a quelques orages en ce moment entre les Landes et la Gironde. Et puis tout ça va circuler sur cette façade atlantique tout au long de la journée.
Oui.
Alors, je le rappelle, les orages, parce que je trouve que les gens ne sont pas suffisamment avertis ou pas suffisamment prudents ou pas suffisamment de bon sens, mais sous un orage, on a une visibilité réduite, faut pas être surpris parce qu'on peut avoir de fortes pluies, parfois de la grêle, des rafales de vent, et tout cela peut durer une heure ou deux, et puis ça va cesser brutalement ou au contraire arriver brutalement. Et bien voilà, c'est exactement ce qu'on va connaître dans la moitié ouest avant la fin de la journée. Ça arrivera sur l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, le centre plutôt au cours de la nuit prochaine. Dans l'Est, encore une journée donc avec un temps sec, ensoleillé, chaud, sauf en montagne, il y a quelques orages possibles également sur les Alpes ou encore du côté de l'Auvergne.
Oui.
Les températures encore très élevées avant l'arrivée de ces orages. Alors demain, ces orages vont avoir tendance à gagner également les régions de l'Ouest. Ça va se passer sous forme de lignes d'orage, c'est-à-dire que ça va circuler du sud vers le nord. Pendant une heure ou deux, on voit passer ces orages, puis il y a une nouvelle accalmie, puis ça recommence. Alors la chronologie, impossible à vous la donner, parce que ça sera plutôt le matin ou l'après-midi, ça c'est impossible. Et ça va circuler comme ça, régulièrement avec ces lignes de grains, jusqu'au week-end inclus. Le tout accompagné d'une baisse des températures. Pour le week-end, on va repasser sous les 30 degrés dans la plupart des régions, voire 25 dans le nord. Et puis en début de semaine, on va avoir encore un temps perturbé, mais avec de l'air encore plus frais. C'est-à-dire que la baisse des températures va se faire en deux fois, puisqu'en début de semaine, là, on pourrait être sous les 25 degrés dans la moitié nord, entre 20 et 25. C'est à peine de saison. Et un peu plus de 25 degrés dans le sud. Et je vais finir sur une bonne note, c'est qu'a priori, je vais peut-être m'avancer un peu, mais en milieu de semaine prochaine, l'anticyclone des Açores pourrait revenir après ce long épisode orageux.
Une toute dernière question. J'ai vu que certains départements annonçaient déjà des restrictions en rapport avec la sécheresse. Les orages changent quelque chose, ou par définition, alors, c'est de la violence qui arrive en couche superficielle.
C'est toujours pareil, il y a les deux choses. Ce qui se passe effectivement en surface, où là la sécheresse peut s'installer en 3-4 jours, mais c'est une sécheresse de surface qui peut très vite être endiguée par les orages qui vont arriver, mais avec beaucoup d'inégalités, certains étant plus servis que d'autres. Et puis il y a le problème de fond, ce sont les nappes phréatiques dont on parle suffisamment, où là en revanche, en ce début d'été, elles n'ont jamais été à des niveaux aussi élevés depuis 3 ou 4 ans. Donc vous voyez que les nappes phréatiques, tout va bien. En surface, évidemment, on va surveiller les sécheresses éventuellement.
Parce qu'avec tout ce qu'on s'est pris comme flotte dessus,
le
contraire m'est un petit peu perturbé.
Voilà.
Merci infiniment, cher Louis Baudin.
RTL.
Vous êtes comme ça.
Et pour notre Vous êtes comme ça quotidien, voici une initiative peu commune qui va sans doute vous redonner le sourire, voire vous surprendre. Le directeur de l'EHPAD du village de Champex, c'est dans le Puy-de-Dôme, a choisi d'amener ses résidents à l'hippodrome. Non pas pour parier sur les courses, mais pour leur faire un baptême avec un jockey, rien que ça. Bonjour Guillaume Frixon.
Bonjour Yves, et bonjour à tous.
Alors ces résidents d'EHPAD ont pris place chacun leur tour dans un sulky, à la manière des plus grands jockeys à l'hippodrome de Vichy dans l'Allier, et vous étiez à leur côté.
Oui, et je peux vous dire que la vision est plutôt surprenante. Imaginez un peu, Monique, 87 ans, lancée à près de 40 km/h sur la grande ligne droite de l'hippodrome de Vichy. Elle est assise derrière Boléro, un ex-cheval de course, et elle est devant Stéphane le jockey pour 10 minutes sur la piste.
Ah bien, mais moi je crains pas, je suis habitué aux bestioles. C'est la première fois. Et bien quand je vais dire ça à mes petites filles...
Et l'organisation est bien rodée entre chacune des épreuves officielles du jour. Les résidents de l'EHPAD s'initient donc à la course hippique. Un casque, une blouse, des lunettes de protection. Et les voilà s'installer sur un petit siège sans dossier avec Stéphane, un ancien jockey.
Ça va, vous êtes bien installé?
Oui, ça va.
On va pouvoir partir?
Oui, oui.
Hein, ça va bien se passer?
Oui, oui.
Bon, bah, impeccable.
Alors si entre les écuries et l'entrée de la piste, le cheval est au pas, très vite, l'attelage s'élance et cette fois c'est René, 78 ans, qui va découvrir toutes les sensations procurées par un cheval de course.
J'ai regardé les réactions du cheval, j'ai pris les rênes, c'est génial quoi. Du bien-être, de dire t'étais bonne à quelque chose encore.
Vous êtes prête à être jockey?
Il y aura peut-être du travail encore.
René a le sourire, on l'entend, mais pour tenter pareille expérience, il fallait sans doute que les résidents de cette EHPAD soient quand même en très bonne condition physique, je suppose.
Eh bien même pas, puisque certains résidents sont même en fauteuil roulant le reste de la journée, et pourtant eux aussi, courageux et téméraires, ils peuvent participer à cette expérience hors du commun. Florent Ferragu, le directeur qui tient les rênes de l'EHPAD Campelis de Champé dans le Puy-de-Dôme, eh bien il voulait, après cette année de crise sanitaire compliqué, offrir une activité vraiment hors du commun à quelques-uns de ses résidents qui sont âgés de 83 à 94 ans.
Et c'est surtout leur montrer qu'ils sont capables de tout. Tout ce qu'on a pu faire comme activité un petit peu extraordinaire, ils s'en souviennent. Ils en reparlent à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Donc c'est pour ça, c'est le pari est gagné.
Là, voilà. Alors, mettez vos pieds.
Et après chaque passage, Virginie Moreira-Lopez, qui est auxiliaire de vie sociale à l'EHPAD de Champé, glisse un petit mot, un petit geste de félicitations à chacun de ses résidents, entre admiration et fierté.
De voir nos résidents ici, voir ce monde qui est quand même particulier parce que c'est pas tout le monde qui peut y avoir accès, je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment très beau et ils se surmènent. Enfin, ils font des efforts plus que d'habitude. Et ça va faire un an qu'ils n'ont pas fait d'activité hors à la maison de retraite. Et c'est vrai qu'il était temps qu'on sorte tout ça, qu'on puisse revivre comme avant. Il était temps.
Là, vous avez mis le paquet, là.
Là, on a mis le paquet, là.
On est parti.
Et pour finir la journée, c'est Micheline, près de 92 ans. Elle a aussi fait plusieurs tours de piste, assise sur son sulky. Et son bonheur est immédiat.
C'était très bien, c'était génial. Ah oui, je serais prête à recommencer, oui.
Bref, des sourires, quelques larmes d'émotion et des souvenirs sûrement inoubliables. Voici sans doute, avec cette EHPAD, le plus beau des paris gagnants.
Merci beaucoup Guillaume Frixon. Un reportage à retrouver sur notre application mobile RTL.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h41, on vous retrouve Isabelle Choquet en compagnie d'un soldat qui est revenu de l'enfer grâce à la philosophie.
Oui, j'ai une pensée ce matin pour tous les lycéens qui vont passer demain l'épreuve de philo du bac, surtout ceux qui n'y voient aucun intérêt. Écoutez donc cette histoire piochée dans Philosophie Magazine. Notre héros s'appelle Bond, James Bond. Enfin, Bond, c'est son second prénom. Au complet, c'est James Bond Stockdale. Il était pilote dans la Navy. Il ne rêvait que de se battre. Mais au début des années 60, on lui accorde un congé. Et là, changement d'ambiance, il s'inscrit à la prestigieuse université Stanford en Californie, où il croise la route d'un ancien militaire devenu prof de philo. Une vraie révélation. Stockdale se passionne pour les classiques. Et à leur dernière séance de travail, son mentor lui offre un livre, le manuel d'Épictète. Épictète, un sage austère, une grande figure du stoïcisme. Son manuel, Stockdale le garde avec lui même au cœur de la guerre. En 64, il dirige le premier raid américain contre le Nord-Vietnam et voilà qu'un jour, alors qu'il vole à basse altitude, il est pris pour cible depuis la Terre. Pas le choix, il faut s'éjecter en urgence. Et tandis que son parachute le mène vers un petit village, il se dit en lui-même « J'entre dans le monde d'Épictète ». C'est tellement vrai. Dans un premier temps, les villageois le tabassent. Sa jambe gauche est broyée au niveau du genou. Il se retrouve donc boiteux comme Épictète lui-même. Il est conduit à la prison de Ohalo à Hanoï, où les prisonniers de guerre sont soumis à des interrogatoires pour leur extorquer des informations ou pour les forcer à faire acte de contrition. Si l'interrogatoire ne suffit pas, la torture prend le relais. Notamment le redoutable supplice des cordes, une forme de pendaison inversée, la tête en bas, une souffrance sans nom. Stockdale va subir ça 15 fois en 7 ans et demi de captivité et on va lui casser la jambe une seconde fois. Pour supporter l'insupportable, il se répète certains passages de son manuel. La claudication est une gêne pour la jambe, pas pour le choix de vie. C'est ça le stoïcisme. Pour atteindre le bonheur, il faut se concentrer sur ce qui dépend exclusivement de nous. Le reste, il faut autant que possible l'ignorer, même le pire. Stockdale s'accroche à ça. « Vous pouvez détruire mon corps, vous n'aurez pas mon âme ». Il se remémore aussi cette phrase. « Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce. Ce qui t'appartient, c'est de bien jouer le rôle qui t'a été donné. » À Ohalo, Stockdale était l'un des détenus les plus âgés, l'un des plus gradés aussi. Alors, pour assumer son rang, il prend la tête d'une sorte de société clandestine qui entre en résistance. Tous les meneurs de cette contre-organisation vont être repérés et punis, bien sûr. Ils sont alors transférés dans une autre prison surnommée Alcatraz. Stockdale va y passer 4 ans, à l'isolement complet dans une cellule minuscule, sans fenêtre, où la lumière ne s'éteint jamais. Pour ne pas sombrer, il fait du sport, 100 pompes par jour, il déclame des poèmes, il prie, mais le désespoir le guette, la folie n'est pas loin. Un jour, pour échapper à une conférence de presse de propagande, il s'automutile, il s'entaille le cuir chevelu, il se cogne le visage avec un tabouret. Une autre fois, il parvient à briser une vitre et se tranche les veines. Attitude stoïcienne, toujours. Le suicide, comme une ultime liberté. Ça embarrasse les officiels, il ne sera plus jamais torturé. Et puis, 3 ans plus tard, au début de l'année 73, un cessez-le-feu est conclu. Après 2714 jours de captivité, James Bond Stockdale est libéré. La suite, c'est beaucoup de médailles, un peu de politique, mais surtout, bien sûr, la philosophie, avant que ses facultés soient emportées par Alzheimer et avant que la mort le rattrape en 2005. Épictète n'est jamais loin. Épictète, qu'il appelle « mon étoile polaire » ou plus familièrement « old man », mon vieux. Voyage d'un stoïcien au bout de l'enfer, c'est un grand et un passionnant récit à lire dans Philosophie Magazine.
Merci de nous avoir pris par la main alors que l'épreuve du bac de philosophie commence. Isabelle Choquet, on se retrouve demain matin.
Avec plaisir, à demain.
Dans un instant, une autre forme de philosophie, celle du rire avec Laurent Gérard.
RTL Matin. Toujours avec vous. RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves Calvi.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi. Et bonjour Olivier Véran, vous allez bien?
Olivier.
Vous n'avez pas l'air dans votre assiette?
Bonjour, en effet depuis quelques jours j'ai une petite forme.
Ouais, c'est pas le Covid j'espère.
Non, je vais très bien, mais justement, je crois que c'est l'absence de Covid qui me fait déprimer.
Mais c'est-à-dire ?
Ben, l'épidémie recule, tous les indicateurs sont ouverts, les restaurants sont rouverts, bref, je ne sers plus à rien.
Vous êtes ministre de la Santé quand même, il n'y a malheureusement pas que le Covid à gérer.
Ah bon ? Je suis ministre de la Santé.
Tout à fait.
Je croyais que j'étais ministre des restrictions.
Mais non, de la santé en général.
Ah mais c'est formidable.
Ben voyez.
Vous me redonnez le moral. Je vais placer en quarantaine tous les gens atteints d'un cancer, priver de vacances les malades de Parkinson et obliger les gens qui souffrent d'un rhume des foies à porter un masque 24 heures sur 24.
Oui, alors c'est peut-être pas nécessaire tout ça.
Si. Et ce n'est pas tout. Je vais refermer les restaurants pour stopper la propagation des intoxications alimentaires.
Ben, c'est peut-être un peu extrême tout ça.
Je vais aussi fermer les clubs libertins pour éviter la propagation des herpès génitaux.
Oh.
Un grave fléau selon le célèbre médecin urgentiste Latric Pelou et ses confrères Jean-Claude Delfessé et Michel Sifès.
Bon, vous voulez parler de Patrick Pelou, Jean-Claude Delfressi et Michel Sifès, bien sûr.
Arrêtez de me contredire ou je demande la fermeture de RTL.
D'accord. Les élus se mobilisent de plus en plus contre les éoliennes. C'est le cas notamment en Dordogne, où 54 maires ont signé une tribune dans laquelle ils disent leur opposition au projet éolien des Grands Clos. partons justement sur les routes de France avec notre spécialiste, Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Jean-Pierre.
Eh ben bonjour ma petite Jade, et oui, les élus de nos territoires ruraux sont vent debout, c'est le cas de le dire, contre les éoliennes qui défigurent les paysages de nos belles régions, ces régions que nous aimons tant. D'ailleurs, comme le dit le proverbe en Dordogne, si tu veux faire du vent, demande plutôt au gouvernement.
Oui, mais ces éoliennes participent à une écologie nécessaire.
Oh, laissez-moi rire. En effet... en effet, nos régions ont mis en place depuis belle lurette des énergies renouvelables. Partons d'ailleurs à Saint-Armand-sur-Fion, dans la Marne, où Jean-Louis, le patron du restaurant Au Bon Petit Coin, a établi un système malin pour fournir de l'énergie à tout le village grâce à sa spécialité, le cassoulet.
Le cassoulet dans la Marne, c'est pas plutôt dans le sud-ouest ?
Eh oui, mais on sait s'adapter, vous le voyez, dans nos belles régions. Grâce au cassoulet de Jean-Louis, tout le village est autosuffisant en gaz. Je vous explique le principe, finalement, qui est très simple et que pour tout le monde pourrait...
Bon, d'accord, je crois qu'on a compris, Jean-Pierre. Et pour l'essence, alors, difficile de se passer du pétrole ?
Pas du tout, ma petite Jade. Partons à Couperose sur l'Ivrogne, où Raymond, le plus fidèle client du café du village, fournit en carburant écologique et renouvelable tous ceux qu'ils veulent.
Mais c'est-à-dire ?
Oui. Bah, je vous donne un exemple. Hier, Kevin, le petit-fils à Raymond, est tombé en panne d'essence avec sa mobilette devant le café du village. Il a suffi à Raymond, qui venait de s'enquiller 3 prunes et 5 calvas, d'uriner dans le réservoir de Kevin, qui a pu redémarrer et a parcouru 100 km en 2 minutes 53. À Couperose-sur-l'Ivrogne, on appelle d'ailleurs Raymond la pompe à bioéthanol. Adieu les particules fines et les odeurs d'échappement. Maintenant, dans tout le village, ça sent bon la prune et la pomme.
D'accord. D'autres exemples, Jean-Pierre ?
Oui. Bah, bien sûr. À votre avis.
Oui.
Partons à la Fistinière, ce village.
Jacques Chiasson.
Et retrouvons en PCV le maire d'Hiver Droite apparenté, Jacques Cheminade. Jacques Chiasson.
Bonjour, notre Jacques Chiasson.
Bien le bonjour, mademoiselle Jade, monsieur Calvé.
Bonjour, monsieur Chiasson.
Moi, ce que je voulais dire aux gens de la capitale, c'est qu'on n'en veut pas de leurs éoliennes. Ah. On n'en veut pas de ces machins qui tournent, là. Ils n'ont qu'à planter leurs machins dans leur ville et puis pas dans nos champs.
Oui, mais comment, à la Fistinière, participez-vous au renouvellement énergétique ?
Voilà. Oh, on les a pas entendus, hein, c'est pas rigolo. C'est bien simple, à la Fistinière, on a toujours utilisé qu'une seule énergie, l'huile de coude.
Oh là,
elle est naturelle, celle-là. Alors si la ministre de l'écologie, là, comment elle s'appelle, la Pompidou, la Pompili ?
Non, Pompili, madame Pompili.
Elle continue à nous pomper l'air avec ses éoliennes. Moi, je le dis haut et fort, tous les Fistiniens et toutes les Fistiniennes, bon, tapez du poing.
Oula.
Et pas que sur la table, si vous voyez ce que je veux dire, madame.
Oui, au revoir. Oui. Bonjour Céline Dion, un peu de fraîcheur.
Ah, merci, bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi, je suis tellement contente d'être invitée dans votre morning show qui swing là. Je vous écoute tous les matins, ça me donne le smile pour la journée.
Vous n'êtes que fraîcheur.
Ah, c'est gentil, oui. Céline.
Monsieur Calvi.
Nous vous recevons pour parler d'Aline.
Vous êtes allée chez le coiffeur?
Non, pas
j'y vais
encore.
Dans un instant. Voilà.
Le film de Valérie Lemercier qui s'inspire de votre vie et qui sera diffusé hors compétition au Festival de Cannes, ça vous fait plaisir?
Donc bien sûr que ça me fait plaisir. Le Festival de Cannes, c'est un peu comme le Caesars Palace de Vegas, où j'ai joué pendant 20 ans. Là, c'est mythique. Ça rayonne dans le monde entier. Alors pour moi, le biopic de votre Valérie Lemercier, là, c'est un peu comme la cerise sur le pancake de ma carrière.
Ah. Est-ce qu'on aura le plaisir de vous voir à Cannes cette année, Céline?
Je vais tout faire pour venir, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur de toutes ces actrices sublimes qui ont monté les marches du Palais des Festivals. Là, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve et l'autre là, avec sa grande bouche qu'on dirait un requin des dents de la mer. Là, comment qu'elle s'appelle? Ah oui, Fanny Ardant. Oh, ça va être dur de passer après elle, je vous le dis. Moi.
Mais enfin, Céline, pourquoi vous pleurez?
Oui. Avec ce maudit confinement, j'ai laissé mon corps en jachère pendant un an.
Ah, zut.
Et j'ai mes poils qui ont tellement poussé que je ressemble à un castor du Saint-Laurent.
Mais c'est charmant.
C'est charmant, mais c'est pas bien beau, là. Même si c'est la mode maintenant d'après Télérama. Je peux quand même pas monter les marches à cause du poil sur les guiboles, les aisselles en friche et le persil qui dépasse du cabas. Il va falloir y aller à la moissonneuse-batteuse pour enlever tout ça. C'est affreux, je vous le dis, c'est affreux. Là,
bon, alors Céline, allons. Le Festival de Cannes commence le 6 juillet. Vous avez un mois pour vous préparer.
T'as raison, t'es bien positive. Là,
bah oui, je suis pauvre.
Ah, je vais prendre rendez-vous chez Sienne. Mais avant de vous quitter, il est pas là, Cyril Lignac?
S'il arrive.
Ça, je voudrais lui demander une recette de nuggets.
Oui.
C'est pour mes jumeaux Eddie et Nelson qui sont en pleine croissance et ils mangent comme quatre. Et vu qu'ils sont deux, ça fait huit. Je sais plus quoi leur donner à manger. Oh, c'est affreux. Aidez-moi, mon Cyril.
Mais Cyril va régler ça.
Oui.
Nous interviendrons auprès de Cyril, comptez sur nous.
C'est bien gentil, je l'aime bien ce petit jeune-là. Oui. J'aime bien les jeunes en ce moment.
Ah, c'est vrai? On est heureux de savoir que vous avez des perspectives devant vous. Voilà, on était très heureux de vous accueillir dans cet univers de fraîcheur, de charme qui vous caractérise. On vous retrouve sur le site RTL.fr. Heureusement que mademoiselle Jade est là pour m'aider. Et nous avons rendez-vous demain matin avec toute l'équipe.
Merci.
À demain pour le morning show.
Oui, au revoir Céline. Et comme un bonheur ne vient jamais seul.
Alors qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'il va nous faire le Cyril?
Des petits nuggets,
c'est pas possible.
Des nuggets vegan.
Mais que ça tombe bien.
La question de l'auditeur est absolument ahurissante. Et donc, je la mets dans ma poche et je vous la pose dans un instant. Si vous y arrivez, moi je dis bravo et je pense que je suis capable d'y arriver. A tout de suite, Cyril.
A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cher Cyril, vous étiez déjà avec nous il y a quelques instants. Vous étiez déjà avec nous il y a quelques instants avec Laurent Gérard. Alors je rappelle la question qui vous est posée aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est assez gratiné. Bertrand vit à Montpellier, jusque-là tout va bien. Il a voulu faire des nuggets vegan avec des protéines de soja. Mais pas moyen, nous dit-il, de l'agglomérer. Bah, c'est bête ça. Ah, oui. Auriez-vous une astuce pour faire un nugget qui tient la route, mon bon Cyril?
Alors, c'est pas facile. Hein.
Non.
Ça, je vous le dis. Oui. Alors, du coup, j'ai pris des protéines de soja que j'ai mixées. Oui. J'ai pris de la sauce anglaise et une sauce tamari, qui sont des sauces qui sont donc véganes.
Alors, attendez, je vous interromps. La sauce anglaise, c'est bien la Worcestershire sauce, c'est
pas voilà. J'ai pas osé le dire.
Vous qui revenez d'Angleterre, vas-y, prononcez-la pour nous faire rire. Voilà. Comment on l'appelle la sauce?
Worcestershire sauce.
Oui, c'est ça, d'accord. Voilà. Et alors vous vous embêtez dans tous les restaurants britanniques à la demander, et quand le type vous l'amène, vous dites Worcestershire sauce.
Donc du coup, je mélange cette bonne sauce anglaise avec une sauce tamarin un petit peu, et ça va me donner, avec les protéines de soja, ça va me donner la première base.
D'accord.
Ensuite, je laisse reposer tranquillement, et pendant ce temps, je mélange 5 centilitres de sauce soja, 2 cuillères à café de maïzena, je prends une échalote que je hache dans un bol, un petit bouillon de légumes, vous voyez, c'est quand même un peu sport.
Bien sûr, un tube de colscott.
Ensuite, je prends des crackers de riz que j'émiette. Et ensuite, je prends mes petits médaillons que je trempe dans la sauce soja, puis après dans la chapelure, et je les mets à frire.
Excusez-nous.
Je les mets à griller dans de l'huile de pépins de raisin. Oui. Et pour éviter que ça brûle, je mets les crackers au dernier moment dessus. Donc, je peux vous dire que c'est quand même assez sport.
Voilà.
C'est Monsieur Bricolage.
Mais voilà.
Bon, l'autre solution, c'est de ne pas vivre avec un vegan.
Je confesse que je préfère la vraie viande.
Simplifie beaucoup la vie quand même. Et donc, vous me redonnez le nom de la sauce britannique, s'il vous plaît, avant qu'on se sépare. Vous qui venez d'ouvrir un grand restaurant dans le Grand Londres.
La Worcestershire sauce.
Ah, Worcestershire sauce. Et n'oubliez pas que quand le type vous l'amène, il vous dit Worcestershire sauce. Merci beaucoup Cyril. Toutes vos astuces sont à retrouver sur le site RTL.fr.
Je crois c'est un petit cours d'anglais.
Ah, merveilleux. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Essentiel de l'actualité, Jérôme Florin.
Fin d'isolement pour Jean Castex, qui était cas contact. Il a été testé négatif ce matin. Il peut donc participer physiquement au Conseil des ministres. Le chef du gouvernement multipliera ensuite les déplacements jusqu'à vendredi pour soutenir les candidats au régional. Rémi Daillé, face à la justice, le complotiste soupçonné d'avoir orchestré en avril dernier l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges, a atterri ce matin à Roissy, en provenance de Malaisie, où il vivait avec sa famille. Il devrait être mis en examen. Premier face à face aujourd'hui entre Joe Biden et Vladimir Poutine en marge du sommet de l'OTAN dans un contexte de relations très tendues entre les deux hommes. En football, l'euphorie bleue au lendemain de la victoire française en Allemagne, 1-0 en entame de l'Euro. Les hommes de Didier Deschamps devront confirmer cet élan samedi à Budapest face à la Hongrie. La Hongrie lourdement battue hier soir 3-0 par le Portugal. Et puis première sortie dans le vide pour Thomas Pesquet à 400 km au-dessus de nos têtes. Le Français et un collègue américain sortiront à 14h, heure de Paris, pour installer un nouveau panneau solaire sur la Station Spatiale Internationale. Une opération délicate qui doit durer un peu plus de 6 heures.
Peut-être que Thomas Pesquet pourrait essayer de faire lui aussi des produits véganes dans l'espace. Voilà, merci beaucoup.